Bon, merci. Alors, normalement, vous voyez, vous m'entendez. Moi, je ne sais pas si vous me voyez, vous m'entendez. Je quitte le masque parce que le webmaster est parti. Et donc, on a 1h15, 1h30 pour parler d'un sujet sur les impacts. Et donc, une météorite tombe sur la Terre, éventuellement la Lune, ça fait un gros boom. Et le résultat de ce gros boom, c'est des cratères qui peuvent être petits et sur Terre. Ça, c'est un petit cratère sur Terre, quelque part en Namibie. Ça, c'est peut-être un gros cratère sur ce corps que tout le monde reconnaît, tout le monde a reconnu, Mimas, satellite de Saturne. Donc, on va parler des impacts et des cratères. On parlera quasiment pas des météorites, c'est un sujet intéressant, mais il faudra me réinviter pour que je parle des météorites. Alors, il faut que ça puisse passer, il faut que je fasse ça. Donc, avant de regarder les cratères, on va regarder quelques chutes et quelques chocs historiques célèbres, ou moins célèbres, c'est-à-dire des météorites qui sont tombées du temps après l'invention de l'écriture. Donc, on a des chroniques, voire des dessins, voire des photos, voire des films. Et qu'est-ce que ces chutes historiques peuvent nous apporter comme renseignements sur des événements plus anciens? Alors, le plus célèbre des impacts récents date du 15 février 2013, donc il y a 7 ans et quelques semaines. Il a eu lieu à Tcheliabinsk, c'est en Sibérie. Alors, il faisait froid, c'est au mois de février. En Sibérie, il fait froid. Alors, voici la carte d'identité du bolide qui nous est rentré dedans. Il pesait à peu près 100 000 tonnes, ce qui lui faisait un volume d'à peu près 33 500 mètres cubes. Il avait un diamètre de 20 mètres. La vitesse d'entrée au-dessus de l'atmosphère, c'était 19 km par seconde. L'énergie dégagée par ce choc entre ce corps-là et la Terre, c'est 500 kilotonnes de TNT, c'est-à-dire à peu près 30 fois la bombe d'Hiroshima. Et la nature de ce corps, c'était un astéroïde géocroiseur de nature chondritique. C'est la plus fréquente des météorites. Donc là, je vous donne le résultat, la carte d'identité. Mais comment est-ce qu'on est arrivé à tous ces chiffres, la masse, etc. Donc, on va raconter cette... comment a-t-on pu établir cette carte d'identité? Alors, je vais vous d'abord vous montrer trois petits films. Normalement, j'ai pas regardé, ça marche, t'as essayé?
Normalement, ça marche, mais...
Donc, on va voir si ça marche. Je clique dedans, je dis « OK ». Donc c'est une caméra d'une voiture qui, comme ça, il roulait. Les caméras, c'est parce que pour éviter les litiges entre assurances. Et vous allez voir apparaître dans le ciel une boule de feu et qui devient très éblouissante et puis qui disparaît derrière les arbres. Ça, c'est le premier film. Le conducteur a dû être surpris.
Mais
ça ne paraît pas. Un deuxième, elle est dans la ville de Tcheliabinsk, et il y a un feu rouge, et le conducteur s'arrête au feu rouge. Bêtement. Pareil, il a une caméra pour filmer en cas de litige avec les assurances. Il y a beaucoup, paraît-il, d'escroqueries aux assurances en Russie. Et vous allez voir apparaître par la gauche le bolide. C'est vitesse naturelle, hein. Alors, vous voyez qu'avant, il y avait un feu rouge. Connaissant la luminosité du feu rouge, on peut étalonner pour voir la luminosité totale. Alors, voilà, une caméra de surveillance en haut d'un immeuble. Il y avait les voitures bêtement qui roulent. Il y a de la neige par terre, on est en février en Sibérie. Et vous n'allez pas voir la météorite, mais la lueur que ça fait quand elle entre dans l'atmosphère. Vous allez voir la lueur et l'ombre des lampadaires qui tournent. Et là, c'est très lumineux, ça s'attire de la caméra, c'est ça. Alors, la traînée, vous avez vu trois films, j'aurais pu en montrer, si vous tapez sur le web, il y en a des dizaines. On peut voir la traînée vue du sol, un peu après, on voit ça dans le ciel. Là, c'est un avion de ligne, quelqu'un, c'est le pilote ou qui a pris ça par le hublot. Donc, on a une trajectoire qui permet de la... on peut calculer la trajectoire. Là, c'est vu par un satellite météo, donc vu de au-dessus de l'atmosphère, on voit la traînée. Là, c'est la frontière entre la Russie et le Kazakhstan, je crois, le trait bleu. Ça vous donne une voix où c'est. Et avec tout ça, on peut c'est la trajectoire. Parce que on a l'orbite vue de plusieurs sites à la fois, l'avion, etc. Donc on peut retracer la trajectoire en trois dimensions. Et là, vous avez donc le système solaire interne avec le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre en bleu, Mars. Et voici l'orbite de la météorite de Tcheliabinsk qui tournait comme ça. Et il se trouve que cette orbite a croisé l'orbite de la Terre le 13 février 2013 et que la Terre était juste à cet endroit-là, à ce moment-là. Et donc, ça fait boum. Donc, c'est une orbite typique d'un, ce qu'on appelle un astéroïde géocroiseur. C'est, normalement, les astéroïdes sont entre Mars et Jupiter. De temps en temps, il y a des problèmes. Est-ce que j'explique pourquoi? Non. Mais c'est dévié. Alors, vous avez vu qu'il y a un flash lumineux qui a été filmé par 36 caméras. Et il y a toujours un maximum, un éclair qui dure quelques secondes. Le temps zéro, c'est le maximum du flash. Il commence 3 secondes avant et pendant 3 secondes. Donc, quelques secondes, 5-6 secondes, il y a un flash lumineux. Et là, vous avez l'intensité lumineuse. C'est en magnitude. Alors, les astronomes savent que c'est la luminosité. Et l'échelle est logarithmique. C'est-à-dire que quand vous passez d'une graduation, de 24 à 25, c'est multiplié par 10. De 25 à 26, encore par 10. Donc, de 24 à 26, c'est 100. Le Soleil, c'est 26 moins 26,7. Le Soleil, c'est donc quelque part par là. Donc, on est au moins 10 fois plus lumineux que le plein Soleil. Pendant 5 secondes, il y a quelque chose d'au plus lumineux que... Il y a des... On a lu, mais je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y a eu quelques cas coup de Soleil. Alors, c'est pas long, mais effectivement, si c'est 15 fois plus lumineux que le Soleil, je ne sais pas si c'est vrai. Alors, le bolide a explosé quand il est rentré dans l'atmosphère. Et il y a une onde de choc qui s'est propagée. La lumière, c'est instantané, la vitesse de lumière, 300 000 km/s. Donc, on peut dire que le flash lumineux, et on le voit en même temps que l'explosion a lieu. Par contre, l'onde de choc se propage dans l'atmosphère à la vitesse du son, c'est-à-dire 330 mètres par seconde. Toutes les 3 secondes, il y a 1 km. Alors, je vais vous montrer 3 films. On pourra repasser, mais ils sont pas très longs. Où on voit les deux premiers, on voit le flash lumineux. Et plus d'une minute plus tard, l'onde de choc qui arrive. Alors, comme c'est trop long, les auteurs du film ont coupé, mettons, il y a 15 secondes avec le flash lumineux, une coupure, et puis 15 secondes où on voit le flash. Alors, je pourrais le repasser 2 fois pour qu'on voit bien. Alors voilà, ça c'est une caméra de surveillance. Et vous voyez la météorite qui arrive, et le flash lumineux, ça sature la caméra. Voilà, là il va y avoir la coupure, on est à 43 secondes, on va bientôt passer à 44, 45, voilà, 44-32. Regardez bien, l'onde de choc arrive, vous avez vu, le pylône va la repasser, parce que c'est chouette, c'est marrant. Vous avez le pylône qui vibre, et la neige qui tombe du toit. On peut la passer à l'envers, là vous avez la neige qui remonte sur le toit, parce que je passe le film à l'envers, et le pylône qui brille, le poteau qui branle tant qu'il peut. Donc, il y a à peu près, je ne me rappelle plus les chiffres, 1 minute 30 secondes entre l'explosion et l'arrivée de l'onde de choc. Alors, deuxième film, c'est dans le, pareil, c'est dans le couloir d'une entreprise. On verra le flash lumineux. On voit des gens qui marchent, ils regardent et puis ils font pas attention, c'est curieux, moi je verrais ça. Et on verra que 2 minutes 20 secondes après, l'appareil s'est coupé, l'onde de choc qui arrive. Alors vous allez voir ce que ça donne. Donc voilà, il y a des gens qui marchent bêtement, ils prennent la pause café, le flash lumineux. Alors les gens regardent, ça s'arrête, et puis ils reprennent leur conversation. Et voici l'onde de choc, ça casse les vitres, ça ouvre les fenêtres et ça renverse la dame. Et la troisième, alors on verra pas le flash lumineux parce qu'on en a le local clos, mais vous verrez l'effet de l'onde de choc. Moi, je trouvais elle est marrante comme tout, ce petit film. Voilà, l'onde de choc que ça fait. Alors, j'arrête là. Donc, c'est cette onde de choc qui a fait des blessés et des dégâts. Par exemple, là, il y a tout un mur qui est tombé. Il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu 1000 blessés à peu près. La majorité des blessés, c'est des blessés par coupure de verre. Parce que ceux qu'on a vus, ils étaient un peu bêtes, ils voient une grosse boule de feu dehors, et continuent comme si de rien n'était. Ils avaient dû commencer à abuser de la vodka, je ne sais pas.
Oui. Il y a des choses normales en Russie.
Comment?
Il y a des choses normales en Russie.
Alors, il y a des gens qui sont allés vers la fenêtre, il faisait froid, effectivement, en février en Russie, mais qui n'ont pas ouvert, c'est une erreur. Si un jour, il y a une grosse boule de feu comme ça, vous allez à la fenêtre pour voir. Mais vous ouvrez la fenêtre, comme ça, quand l'onde de choc arrivera, vous ne vendrez pas d'éclats de verre dans les yeux. La majorité des blessés, c'est à cause des éclats de verre. Alors, dans le premier film, il y a une minute 30 secondes d'écart entre le pic de lumière et l'onde de choc. Et dans le deuxième film, c'est 2 minutes 22 secondes. La vitesse du son étant ce qu'elle est, 340 mètres par seconde, On peut voir que l'explosion a eu lieu à 30 km du premier site et à 42 km du deuxième site. Donc, c'est de la géométrie toute bête. Avec ça, on peut en déduire où a eu lieu l'explosion. Autour de chaque site, vous tracez une sphère, tout ça. Et vous voyez qu'elle a eu lieu à 23 km d'altitude dans le ciel. Donc, la météorite est arrivée. Elle a traversé une bonne quantité d'atmosphère. Et à 23 km, on est en plein dans la stratosphère. Et là, elle a explosé. Alors, l'onde de choc qu'elle a tapée par terre, ça a fait une onde sismique qui a pu être enregistrée dans plein de sismographes. Là, vous avez une certaine sismographe. Vous voyez l'arrivée de l'onde sismique. Par exemple, Kiev, c'est la capitale de l'Ukraine. C'est peut-être à 3000 km de distance. Mais vous voyez l'arrivée de l'onde sismique. Alors, le problème, c'est que juste avant, il y a un tremblement de terre qui arrivait dans l'archipel des Tonga. Et par hasard, l'arrivée de l'onde du tremblement de terre qui était à 15 000 km a collé presque avec l'arrivée dans les environs, environ 2000 km proche de la Russie. Alors, il fallait séparer les ondes sismiques qui venaient des Tonga ou ceux qui... Mais donc, là, on a pu enregistrer la totalité de l'énergie de choc. Comme ça. Alors ensuite, on peut estimer l'énergie véhiculée par ces ondes de choc, atmosphérique ou sismique. S'ajoute l'énergie déduite des courbes de lumière. Et avec des modèles tirés entre autres des activités de nos amis les militaires, qu'on fait des bombes atomiques et tout ça, on peut estimer que l'énergie libérée sous forme de lumière, de chaleur et d'ondes de choc, c'était 30 fois la bombe d'Hiroshima. La bombe d'Hiroshima faisant 16 kilotonnes de TNT. Donc là, c'était 500 kilotonnes de TNT. Alors, il y a plein de tout petits morceaux qui sont tombés au sol. Quand je dis plein, c'est nombreux. Mais c'était des tout petits morceaux. Et là, c'est peut-être la chute la plus spectaculaire, parce que le morceau est tombé dans un lac, qui était gelé, évidemment, en février, en Sibérie, c'est gelé. Et elle a fait un trou dans la glace. Alors, plein de gens ont ramassé des petits morceaux. Et ça, c'est le plus gros morceau, justement, qui est tombé dans le lac, qui n'était pas très profond. Au printemps, les gens ont ramassé ce morceau. Si on fait la somme de tout ce qui a été ramassé, ça représente 0,0001% de la masse du total. C'est-à-dire la quasi-totalité, 0,0001%, c'est à peu près l'augmentation annuelle de ma retraite. C'est-à-dire qu'on s'en rend pas compte. Et maintenant, on s'en rend compte qu'elle va diminuer. Toujours est-il que l'immense majorité de la météorite s'est complètement désintégrée et les petits morceaux, on les a pas retrouvés. Ils ont été désintégrés, ils ont disparu. Mais avec les morceaux, on a pu savoir quel est le type de météorite c'était. Je ne vais pas détailler, c'est une chondrite de type LL5. L'important, c'est que ça, on connaît la densité de ces cailloux-là. C'est 3,3, c'est-à-dire qu'un décimètre cube de cette météorite-là pèse 3,3 kg. Donc, on a l'énergie. 500 kilotonnes de TNT, pour ceux qui aiment un système international, c'est 2000 10 puissance 12 joules. Cette énergie cinétique, 1/2 de mv². Vous connaissez V avec les films. À peu près 20 km par seconde, 19 et quelques. Vous en utilisez M, 1/2 de mv², connaissez. Et voyez que M, c'est à peu près 100 000 tonnes. Comme vous connaissez la densité, 3300 kg par mètre cube, vous en étudiez le diamètre et la masse. Et en diamètre, ça fait à peu près le diamètre d'un immeuble de 7 étages. C'est un machin comme ça, qui est tombé sur la Russie, qui a explosé à 23 000 km, et dont on a récupéré par terre que un fin morceau, l'essentiel ayant été désintégré. Alors, ces chutes, c'est la plus grosse chute recensée depuis les 30 dernières années, et de loin. Là, c'est des données d'un satellite. À chaque coup de météorite suffisamment grosse arrive dans l'atmosphère, ça fait un flash lumineux. Et depuis un certain nombre d'années, en particulier depuis que les Américains, les Russes, etc. ont signé des traités pour ne pas faire d'expérience nucléaire dehors, ou même sous un, on espionne qui respecte. Donc, il y a des satellites qui mesurent les flashs lumineux. On n'a pas trouvé de flèches lumineuses dues aux expériences nucléaires, sauf peut-être coréennes, mais les fonds souterrains, donc on les voit pas. Mais par contre, on voit toutes les météorites qui tombent, et là, vous avez un code de couleur, l'échelle est logarithmique, hein. Et par exemple, le Tchelyabinsk, ça veut dire qu'il est tombé à peu près, c'est logarithmique, hein, 2,25, c'est à peu près justement 500 kilotonnes, l'équivalent de 500 kilotonnes de TNT. Le deuxième le plus puissant, il était déjà, 1/2, ça fait moins 7 ou 8 fois moins puissant. Vous voyez que la majorité, on va dire, qui est, on va dire jaune, c'est 2 et quelques en log, c'est-à-dire 500 fois plus faible. Donc c'était quand même, pour les 30 dernières années, un événement assez exceptionnel. Et heureusement qu'il est arrivé en 2015. Il sera arrivé dans les années 60-65, en pleine guerre froide. On connaissait pas bien ces choses-là. Et il est probable qu'un militaire un peu délicat du doigt ait dit « Les Américains nous envoient une bombe atomique », il aura appuyé sur le bouton. La trace sismique, lumineuse et tout ça ressemble beaucoup à une explosion nucléaire dans l'atmosphère. Et si ça avait eu lieu avant que ces phénomènes soient connus, peut-être une guerre nucléaire aurait été déclenchée quand c'était Brejnev versus Johnson ou Nixon, en pleine guerre du Vietnam, vous imaginez. Ça aurait pu être grave bon, on a de la chance. C'est arrivé quand on connaissait. Alors ce choc de 2013 nous aide à comprendre deux autres événements célèbres dont on va parler. Un qui est historique, 1908, et un qui n'est pas tout à fait historique, puisque c'est il y a 28 millions d'années. Il y a 28 millions d'années, il y a peu de monde qui a laissé des chroniques. Alors ce qui est arrivé en 1908, en juin 1908, le 30 juin 1908, une gigantesque explosion qui a eu lieu dans l'atmosphère, qui couche et brûle des kilomètres carrés de forêt en Sibérie, dans une région qu'on appelle la Tunguska. Alors on a quelques chroniques, parce que les gens là-bas étaient pas très illettrés, mais il y a un éleveur de rennes, monsieur Vassili Zenluk, là, qui a dit que 600 à 700 de ces rennes furent instantanément réduits en cendres. Il a dû les voir après, parce que s'il lui était là, je sais pas comment... Mais bon, alors, et s'il était pas là qu'il a vu que ça, je sais pas comment il a vu que c'était instantané. Enfin, passons. Les chiens, il y a des chiens qui furent brûlés, toutes les tentes des nomades furent brûlées, les stocks de nourriture et de bois, c'était... Alors, le tsar Nicolas II avait autre chose à faire en 1908, c'est l'année du Karassé Potemkin, et il n'a pas envoyé d'expédition scientifique voir ce qui se passait, voyez où c'est là, dans la Sibérie profonde, là. Est-ce que vous voyez ma pointe? Moi, je la vois, je sais pas si vous la voyez, si c'est assez grand pour vous. Donc, c'est marqué Ground Zero. Hein. Et ce n'est qu'en 1932, je crois, que le camarade Staline a envoyé l'expédition, donc quasiment 20 ans plus tard. Et voilà ce qu'il a vu. Les arbres couchés, etc., etc. On n'a pas de photo plus récente. Voilà, une autre photo. Tous les arbres couchés parallèles. Là, il y a une onde de choc qui venait de vers moi et qui a couché les arbres. Alors, si on a vu les expéditions, on regardait la taille des arbres couchés, j'ai calqué la taille de ces zones d'arbres couchés sur l'agglomération lyonnaise. Là, vous avez Lyon, Vienne, Givors, L'Arbrelle, Villefranche. Vous voyez, la taille, si ça arrivait sur Lyon aujourd'hui, bah, il y aurait 1 million de morts. Alors, ce qui s'est passé à Tchelyabine a permis de comprendre ce qui a dû se passer en 1908. La même chose, en 20 fois plus énergétique. Une météorite qui a complètement explosé dans l'atmosphère, c'était 600 Hiroshima au lieu de 16 Hiroshima. Ce qui fait quand même 10 mégatonnes de TNT. Et là, c'est un dessin d'artiste qui monte. Évidemment, on n'a pas de dessin. Vassili, machin chose, n'a pas dessiné. Alors, on remonte dans le temps, on est à moins 28 millions d'années. Moins 28 millions d'années, c'est l'époque où se déposaient, pour simplifier, les sables de Fontainebleau, les laves, où se formait la plaine d'Alsace et des choses comme ça. Il n'y avait évidemment aucun homme là-dedans. Et on va aller quelque part par là, à la frontière entre la Libye, à gauche, et l'Égypte à droite. On est dans le désert. Et si on va dans le désert, on voit des cailloux comme ça, du sable, et de temps en temps, on voit des cailloux, il y en a deux qu'on voit bien, un troisième qu'on devine là, qui sont différents des autres. Ils sont jaune-verdâtre et un peu translucides. Quand on les ramasse, on les analyse, c'est 99% de silice. C'est comme du quartz fondu. Le quartz pur, ça fond à 1700 degrés. Donc si c'est du quartz fondu, il a fallu chauffer du sable ou du grès à 1700 degrés. C'est chaud. Alors voilà un gros plan, comme ça. Hein. C'est un bout de verre jaunâtre. Alors voilà, ça c'est du verre de Libye, c'est comme ça qu'ils sont chez moi. Un gros morceau, comme ça, vous voyez, c'est ma main. Et là, c'est translucide. Il y en a deux l'une sur l'autre, et je photographie devant ma fenêtre, vous voyez que c'est transparent. Ça s'appelle du verre de Libye, ou verre libique. Et ce verre de Libye a été utilisé par les hommes préhistoriques pour faire des flèches, c'est du verre. Ça coûte bien, c'est bien. Par les pharaons, ça c'est le scarabée, la pectorale de Toutankhamon, qui est un scarabée en verre de Libye. Qu'est-ce qui peut chauffer à plus de 1700 degrés du sable ou du grès il y a 28 millions d'années? Eh bien, ce qu'on pense, c'est que c'était un giga Chelyabinsk ou méga Tunguska. Et un machin encore plus gros qui a fait une explosion dans l'atmosphère. Et là, pour chauffer tant que ça, disons, il y a la boule de feu qui a léché le sol. Et le sol, à cet endroit-là, c'était des grès, qu'on appelle les grès nubiens, qui sont de l'endovicien, si je ne me trompe pas. Et on a fait fondre la surface, c'est-à-dire du grès nubien, a été peut-être vitrifié, je ne sais pas, sur un mètre d'épaisseur, ou 57 mètres d'épaisseur, et une couche de verre. C'était il y a 28 millions d'années. Cette couche a été disloquée par l'érosion, tout ça, et maintenant, on retrouve les blocs éparses dans le désert. Donc, c'est ce qui a dû arriver il y a 28 millions d'années. Alors, on revient dans les chutes historiques. Juillet 92, il y a une comète, Shoemaker-Levy, qui arrive de loin, là, qui passe juste à côté de Jupiter, et passant à côté de Jupiter, ça lui arrive deux choses. Ça la dévie, ça la fait repartir. Elle arrive donc comme ça, et hop, elle repart. Elle est passée tellement près de Jupiter que les forces gravitaires l'ont cassée en 26 morceaux. Et les 26 morceaux à la queue leu-leu sont repartis comme ça, sur une orbite elliptique, et sont revenus. Et on avait calculé qu'ils allaient frapper Jupiter en juillet 1994. Alors, à la date prévue, tous les télescopes du monde se sont braqués sur Jupiter, et on a vu presque en direct le choc. Pourquoi presque en direct? Parce que la collision a eu lieu de l'autre côté de Jupiter. Donc c'est tombé sur la face qu'on voyait pas. Mais deux heures après, les cicatrices du choc sont arrivées parce que Jupiter tournait. Alors là, vous avez une image. La Terre est quelque part par là-bas, à droite, et les 26 morceaux de la comète sont tombés sur le côté nuit qu'on voyait pas. Mais deux, trois heures plus tard, les traces, comme Jupiter tourne, un tour sur lui-même en 11 heures, de, en 10 heures, je sais plus.
C'est combien? 10 heures, hein? Ouais, je savais pas qu'il fallait réviser.
Donc c'est arrivé, et voici les, entre guillemets, les cicatrices Jupiter, c'est une boule de gaz, mais les morceaux de comète qui sont tombés, ça a remué tout ce qu'il y a dessous, et probablement que sous les nuages jolis et colorés de la surface, il doit y avoir des choses toutes noirâtres, toutes pas belles, et ça remontait de l'intérieur de Jupiter. Pour donner la taille, là c'est un cyclone sur Jupiter, ça ne vaut pas la taille de la Terre. Donc les cicatrices faites par Shoemaker-Levy, cassées en 26 morceaux, ça fait ces gros machins, celui-là, la taille de la Terre. Alors, voir une comète qui passe près de Jupiter et qui se fait casser en 1000 morceaux, ça nous permet d'expliquer des choses qu'on connaît sur Ganymède et Callisto, c'est des alignements de cratères de météorites. Il y en a là, ça c'est sur Callisto, ça c'est sur Ganymède. Alors, soit c'est Dieu avec une mitraillette qui tire, ta, 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 soit c'est une météorite qui s'est cassée, et il y a donc un chapelet, comme ça là, et ça fait un alignement de cratères. Là, vous avez un alignement de cicatrices, c'est pas des cratères puisque c'est du gaz. Et ça, s'il y a des astronomes amateurs qui m'écoutent, des choses comme ça, on en connaît sur la Lune. Voici David Catena sur la Lune. Et probablement qu'une comète, une météorite, il y a un certain temps, elle est suffisamment près de la Terre pour être déviée, cassée en 1000 morceaux, et les 1000 morceaux sont tombés sur la Lune comme une rafale de mitraillette. David Catena, on la voit au télescope si on s'est volé sur la Lune. Autre chute célèbre, octobre 92. C'était le soir, aux États-Unis, il y a un objet lumineux qui a traversé le ciel, il a été vu sur plus de 700 km. C'était l'heure où il y avait des matchs de football américain, les matchs de baseball, et à l'époque, il n'y avait pas de smartphone, de portable, mais il y avait des gens qui avaient des caméras, parce qu'il y avait le petit-fils qui jouait, il filmait. Il y a quand même un certain nombre de gens qui ont filmé, qui ont vu la météorite qui est tombée. Je vous passais un film qui était fait, c'était un spectateur qui, pendant quelques secondes, a oublié de regarder le match. Il s'est cassé en plein de morceaux, vous allez voir, et on a retrouvé un seul morceau, qui fait 12 kilos, il est là. Et là, c'est une voiture, il est tombé sur le coffre de la voiture, qui est maintenant dans un musée, une plaque de verre à l'abri. Et voici une photo que j'ai faite de la voiture cassée et de la météorite autour. Alors, on va voir le film. Voilà, la météorite arrive. On a un match de je sais pas quoi, du football américain. Elle se casse en morceaux, regardez, on voit plusieurs morceaux. Se casse en beaucoup de morceaux. Ça, elle est dans l'atmosphère. Et puis elle disparaît. Et on n'en a retrouvé qu'un seul morceau que je vous ai montré sur la voiture de Mrs. Knapps. Alors, autre chute rendue célèbre par un peintre, le grand Raphaël. Il y a une exposition Raphaël à ce moment, je crois, à Rome. Donc, si vous allez à Rome, ils viennent de déconfiner. Raphaël a peint des madones, hein, beaucoup de madones avec Jésus. Jésus qui est en double parce qu'il est dans les bras de sa maman. Et puis là, je ne sais pas si c'est Jésus ou c'est un petit chérubin. Là, vous avez Saint Jean-Baptiste. Là, vous avez donc des bondieuseries. Là, c'est Joseph. Je ne sais pas. Et toujours est-il que dans son tableau, qui doit avoir de grandes vertus évangéliques, Raphaël a dessiné une ville. Là, j'agrandis le carré. Il y a la ville, un château, des tours, et vous voyez la chute d'une météorite. Qui est peinte par Raphaël, qui a dû voir cette chute du 4 septembre 1511, il y a des chroniques, et qui l'a dessinée. Alors, ça, c'est des photos récentes prises par des portables et tout ça. Voilà ce qu'on voit quand on en voit une qui arrive en plein jour. Hein. Et on peut voir que, finalement, Raphaël était assez bon observateur. S'il comparait ce dessin de Raphaël avec cette photo de smartphone, ça ressemble. Une différence, c'est que cette photo smartphone est quand même moins chère que ce tableau de Raphaël, qui est au musée du Vatican. À un moment, il y avait une exposition météorite au planétarium. J'avais demandé au pape s'il pouvait nous prêter la Madone de Foligno. J'ai même pas eu de réponse. Alors, 1492, une météorite tombe sur un village alsacien qui s'appelle Ensisheim. Pareil, la météorite se casse en morceaux. Il y a plein de morceaux qui ont été ramassés. Quand je dis plein, c'est une dizaine. Ça, c'est le plus gros. Ils ont tous été mis dans le cœur de l'église d'Ensisheim parce que les Alsaciens étaient un peu sauvages en 1492. Hein. C'est l'année de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Louis XI mettait les gens dans des... C'était Louis XI ou Charles VIII, 1492. C'était le Moyen-Âge un peu... Les gens, ça sentait un peu le soufre, voulaient mettre cette météorite, la brûler, parce que forcément ça venait du diable, ça sentait le soufre. Et le curé qui était intelligent, il y en a, a dit « Ne brûlez surtout pas cet objet qui, venant du ciel, ne peut venir que de Dieu. » Et donc les morceaux ont été mis dans l'église d'Ensisheim et mis dans le cœur comme des reliques. Et à chaque fois qu'il y avait une sécheresse, on sortait la météorite pour faire une procession et demander de la pluie. À chaque fois qu'il y avait une inondation, on sortait la météorite pour demander l'arrêt d'inondation. Comme ça jusqu'en 1790. En 1790, à la Révolution, la météorite a été confisquée de l'église. Elle est partie au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, qui venait de changer de nom. Avant, c'était le Musée du Roi, dans le Jardin du Roi, mais c'était devenu le Muséum d'Histoire Naturelle. Et il y a une trentaine d'années, le plus gros morceau est revenu à Ensisheim. Il n'est pas dans l'église, il est dans le musée municipal qui est juste à côté, mais en Alsace, municipalité-église, musée municipal, comme il n'y a pas séparation de l'église et de l'État, donc il est presque revenu à son point de départ. Et voici la météorite d'Ensisheim, que vous pouvez voir si vous allez en Alsace. Alors, soit vers 622, soit vers moins 2000, on ne sait pas, il est tombé une météorite. Il se trouve que 1 milliard d'hommes se prosternent théoriquement 5 fois par jour en direction de la Mecque, et pas n'importe où dans la Mecque, en direction de la grande mosquée de la Mecque, et pas n'importe où dans la direction de la Mecque, en direction de ce cube encouvert de drap noir, à Kaaba, et pas n'importe où à Kaaba, dans ce coin-là. Et dans ce coin-là, derrière une vitre, qui est une chasse en argent, il y a une pierre noire, qui a été donnée par Dieu à Mahomet via Abraham. En fait, la pierre a été donnée à Abraham, qu'il avait cachée, puis ça a été oublié. Et Gabriel, qui était le secrétaire de Dieu pour parler à Mahomet, Gabriel a dit à Mahomet, voilà où est la pierre noire. Mahomet est allé la chercher, il l'a trouvée. Et alors, si vous voulez la voir, cette pierre noire, vous pouvez aller à la Mecque, mais il faut être musulman pour aller à la Mecque. Il faut donc un certificat d'islamitude. Mais il y a un morceau de cette pierre noire qui a été volé, entre guillemets, par les Turcs, qui est, l'Arabie était turque jusqu'à là, pas très longtemps, et qui se trouve dans un petit enclave, dans un des piliers de la mosquée bleue d'Istanbul, qui est ouverte aux touristes. Il n'y en a aucune publicité, si on ne sait pas où il est, on ne le voit pas, mais on peut voir un petit morceau de cette pierre noire dans la mosquée bleue d'Istanbul, donc même si vous n'êtes pas musulman, vous pouvez aller le voir. Mais pour aller voir peut-être une météorite, ça vaut le coup de se convertir. Alors, si l'impacteur est trop gros et ou trop solide pour être détruit dans l'atmosphère, ou ne tombe que des morceaux, enfin de monter, il arrive au sol à grande vitesse, et il engendre ce qu'on appelle un cratère de météorite, plus exactement un astroblème, et on va en visiter quelques-uns. Mais avant d'en visiter quelques-uns, je vais faire une micro-pause et demander au webmaster s'il y a des questions qui sont arrivées. S'il n'y en a pas, profitez-en pour les poser. Alors, posez des questions sur ce dont j'ai déjà parlé, pas sur les cratères, puisque je vais en parler après. Si vous posez des questions sur les cratères, je risque d'y répondre par la suite. Donc, des questions sur les chutes.
Oui, alors il y a une question. Il y en a deux, là. La première, c'est pourquoi Pierre se tourne toujours à droite? C'est parce que moi, je suis à droite, voilà, on doit voir mon bras ici.
C'est, voilà, je regarde. Ce qui se passe, voilà. J'aime mieux regarder un homme qu'un écran.
La vraie question, elle est de Gabriel qui demande, il y a eu donc deux gros explosions en Russie.
Oui.
Est-ce que c'est un gros hasard que les deux soient en Russie ou est-ce qu'il y a une raison particulière?
Alors,
est-ce qu'il y a des zones plus sujettes à ça que d'autres?
Non. Alors d'abord, la Russie en surface, c'est et de loin le plus grand pays du monde. Deuxièmement, avant l'ère spatiale, tout ce qui tombait dans les océans était inconnu. Sauf si par hasard, il y avait un bateau dessous et le capitaine remettait ça dans son journal de bord. Mais si on regarde la carte depuis 30 ans, bon, c'est depuis 30 ans, le plus gros, il a eu lieu là, c'est la Bisque. Le deuxième plus gros, ici, c'est les îles Aléoutiennes. Et les îles Aléoutiennes, ça appartient aux États-Unis, c'est l'Alaska. Donc les deux plus gros depuis 1988, c'est la Sibérie et les îles Aléoutiennes. Sinon, vous voyez que les chutes, c'est à peu près réparti homogénéement. Prenez une carte de la Terre. Alors, il y en a moins dans les hautes latitudes qu'au Équateur. C'est un effet de projection Mercator, hein, c'est dilaté. Prenez une carte de la Terre et vous jetez une poignée de grains de riz, elle retombe, ça fera ça. Il n'y a pas plus de raison que ça tombe en Russie. Sauf si Dieu aime particulièrement bien ou particulièrement pas bien la Russie, je ne peux pas savoir. Y a-t-il d'autres questions, camarade secrétaire? Il n'y a pas de questions. Alors, on continue sur les cratères. Alors d'abord, l'étymologie, qu'est-ce que c'est qu'un cratère? Donc, on dit cratère, les gens pensent volcan. Un cratère, l'étymologie du cratère, c'est, je ne sais pas comment ça se dit en grec, c'est des vases grecs qui servaient à mélanger l'eau et le vin. Les Grecs, faut dire, ils avaient du vin assez costaud, résiné, etc. Ils mélangeaient souvent l'eau et le vin. Parce que en Grèce, il fait chaud, donc on boit beaucoup. Si on boit beaucoup de vin qui est à 15 degrés, on devient vite pompette. Donc, ils mélangeaient l'eau et le vin. C'est ça, un cratère. Et ensuite, c'est devenu, par extension, toute cavité, essentiellement volcanique, mais éventuellement géométrique. Alors, les petits cratères, j'ai mis des guillemets à petits, parce qu'on va voir ce que ça veut dire, ont une forme de bol. On les appelle les cratères simples. Et là, je vous ai mis deux exemples typiques de cratères simples, une forme de bol. Un sur la Lune, le cratère Moltke, qui fait 6 km de diamètre. Et un sur Terre, le cratère Rotherkamp, qui est en Namibie, dans le désert aussi, et qui fait 2,5 km de diamètre. En colorant bien, si vous ne voyez pas que c'est une photo Google Earth, en colorant bien, j'aurais pu faire croire que ça, c'était sur la Lune ou sur Mars aussi. Alors, un autre petit cratère qui est sur la Lune, cratère Encke-C. Et quand je dis que c'est une forme de bol, voilà, donc, le cratère Isidorus sur la Lune aussi. Ces cratères-là, en gros, ils sont 10 fois plus larges, le diamètre est à peu près 10 fois la profondeur. C'est-à-dire que là, ça fait 15 km de diamètre, le fond doit être à 1,5 km de surface. C'est une forme de bol, mais passé 10 fois moins profond que large. Donc c'est un drôle de bol, c'est plus une assiette à... C'est pas un bol à thé. Alors, il y en a sur Terre, évidemment, et sur Terre, ce qui est bien, c'est qu'on peut y faire de la géologie plus facilement que sur la Lune. Et le plus célèbre des cratères simples terrestres, c'est le Meteor Cratère de l'Arizona, qui fait 1,2 km de diamètre, 120 mètres de profondeur. La météorite faisait de 30 à 50 mètres de diamètre. La masse de la météorite faisait de 10 000 à 400 000 tonnes. Et elle est tombée à cet endroit-là il y a à peu près 50 000 ans. Très jeune, 50 000 ans. C'est à peine avant que les hommes préhistoriques fassent leur dessin à leur cheveux.
Jeune à l'échelle géologique.
Oui, mais jeune à l'échelle géologique. Je suis pas généalogiste, je suis géologue. Jusqu'à, disons, 1 ou 2 milliards d'années, c'est jeune. Pour moi, quand c'est vieux, c'est 2, 3, 4 milliards d'années. Il y avait pas encore d'hommes en Amérique, ils n'avaient pas passé l'étroit de Bering, mais il y avait plein, c'était l'époque de, il y avait déjà des Homo sapiens. Donc c'est jeune, et on peut y aller sans problème. Enfin, sans problème, c'est un site privé, donc faut payer, mais on peut y aller. Alors, il y a tout un machin, des pannes, c'est à l'américaine, alors c'est aménagé. Et si vous regardez les parois, de tout côté, vous voyez qu'il y a 3 formations, 3 types de couches. La couche que j'appelle Coconino, Kaibab et Moenkopi. Kaibab et Coconino sont blanchâtres, mais Moenkopi est rouge, c'est facile à rappeler. Si on voit de plus près, vous avez Kaibab, c'est un calcaire qui est rendu rouge par la couleur qui dévale dessus. Moenkopi, c'est des grès rouges. Et par-dessus, là, ce que j'ai marqué E, c'est un tas de gros cailloux, l'échelle vous est donnée par les gens qui sont là. Et si on s'approche, voilà ce qu'on voit. Ça, c'est des grès de la formation moine que pu. Intact, un peu penché, mais intact. Ça, c'est des morceaux de grès de la formation moine que pu, mais cassés en mille morceaux. Et par-dessus, des morceaux de la formation Kaibab, elle-même cassée en mille morceaux. C'est la même chose vue d'un peu plus loin. Vous avez Kaibab, penché, moine que pu, débris de moine que pu et débris de Kaibab. Ce qu'il y a là au-dessus, c'est la même chose que là, mais cassé en mille morceaux. Et on va regarder ce qui se passe à cet endroit-là. Et vous voyez que la couche est tordue. La couche est tordue. Si vous regardez mes mains, c'était comme ça. Et le cratère était là. La couche était hop, tordue comme ça. On regarde de profil. Hop, comme ça. Et vous voyez la portion. En fait, si on fait des coupes géologiques avant l'érosion, il y avait Coconino, Kaibab, Moen Kopi. Et on voyait une photo qui était là. Tout ça était tordu et recouvert des débris qui venaient de dessous. Alors, l'histoire, comment fait-on ça? Alors, en plus des études géologiques, on vient de voir, on a fait un trou, on a cassé les roches en mille morceaux qui sont tombés. Sur les bords, on a retourné, comme on prend une crêpe et qu'on la plie. Mais on peut faire des simulations numériques, des simulations analogiques. Et je vais vous montrer une simulation analogique. Qui a été faite ici, à l'observatoire. Prenez un bac, mettez de la farine. Par-dessus de la farine, vous saupoudrez de cacao pour que ça soit noir, la farine est blanche, ça fait un contraste fort. Et vous tirez par-dessus avec un pistolet paintball. Donc, et c'est ce qu'on va voir, vous allez voir ce que ça va faire. Donc je lance le film. Alors voilà, je l'arrête et je vais le passer moi-même. Donc vous avez le bac à farine. Vous avez la partie recouverte de cacao, et vous allez voir, ben normalement ça devait s'arrêter, ah ben là ça marche pas comme je veux, parce que normalement, voilà, si, vous allez voir tomber, non normalement je maîtrise la vitesse, mais j'ai changé d'ordinateur, c'est pas le mien, je suis à l'observatoire ici finalement, on va voir tomber la balle de paintball très vite, ah c'est dommage, il faut que je recommence là. Parce que je voulais être maître de ma vitesse. Ça, je peux pas l'arrêter.
En bas à gauche.
Oui. Où est-ce qu'il est? Il est là.
Et maintenant, si tu déposes le
cacao. Ouais, ça devrait être bon. Donc voilà. Là, vous allez voir un trait vert, c'est la balle de paintball, c'était du paintball vert fluo, qui tombe. Là, vous allez avoir arrivé, je sais plus où est-ce qu'elle arrive. Où est-ce qu'elle est? Là voilà, vous voyez, la balle qui va tomber, et elle arrive par terre. Elle arrive par terre. Et vous voyez l'explosion. Et surtout, vous verrez la surface du sable au premier plan qui se retourne. Vous voyez qu'elle devient quasiment verticale. Elle se retourne comme ça. Elle monte, et elle se retourne. Et par-dessus, on voit la farine blanc. C'est le Kaibab. Qui recouvre le cacao marron, c'est le coconino. Non, le moine copie. Et tout ça, ça retombe. Voilà comment on fait un cratère. Est-ce que c'est la peine de repasser? Oui, c'est joli quand même. Vous faites ça chez vous, là, c'est un paintball, de la farine, du cacao. Alors, physiquement, qu'est-ce qui se passe? Alors, là, c'est des simulations analogiques. Là, faut regarder mes mains. Vous avez le sol. Météorite arrive. Et quand elle arrive au sol, elle s'arrête. Mais elle toute son énergie cinétique est transformée en deux choses. Une super compression et une super bouffée de chaleur. Ne nous occupons pas de la bouffée de chaleur, simplement la compression. Vous comprimez ici comme si je donnais un coup de marteau d'une violence extrême. Donc la matière, là où arrive la météorite, est comprimée. Ça fait pas grand-chose, parce que si je comprime la matière, mais dessous, il y a la Terre. Il y a 12 000 km de Terre. Donc, j'ai beau appuyer et comprimer, ça fait pas grand-chose. Et la partie comprimée, elle est là, elle se progresse avec la vitesse du son dans le sol. C'est à peu près 6 km par seconde. Donc au bout d'une seconde, la zone surcomprimée, elle est déjà 6 km plus bas. Donc la zone qui avait été comprimée, l'onde de compression étant descendue, elle se décomprime. Donc elle était comprimée, et ça se relâche. Alors, ça se relâche, vers le bas, ça fait pas grand-chose, mais vers le haut, il y a le ciel. Donc, ce qui se relâche, eh ben, il remonte plus loin que là où il était parti. C'est comme si vous prenez un ressort, un bête petit ressort, que vous le comprimez, si vous lâchez brusquement, il peut jaillir à l'autre bout de la pièce. Donc, il y a une onde de compression due au choc s'enfonce en perdant de l'énergie dans ça, et c'est suivi par une onde de décompression qui suit l'onde de compression, mais qui éjecte la matière tant qu'elle a l'énergie suffisante. Ça fait quelque chose comme ça. Le projectile arrive, l'onde de choc, compression, l'onde de choc progresse, derrière, il y a l'onde de décompression qui progresse pareil, mais qui, elle, éjecte tant qu'elle a l'énergie suffisante pour éjecter. Là, il est dessiné les couches qui se retournent. Vous voyez ? Et puis, au bout d'un moment, il n'y a plus d'énergie, tous les débris retombent, et ça fait votre cratère, avec un remplissage de débris, la profondeur égale au dixième de le diamètre. Et dans ce qui est tombé, c'est toute la brèche, il y a des fractures. Il y a une petite partie de la roche qui a fondu, je vous l'ai dit, ça fait et une onde de pression et une bouffée de chaleur. Et la bouffée de chaleur peut servir à faire fondre la roche, et c'est ce que vous voyez ici. Alors, je vais visiter quelques autres cratères comme ça. Là, c'est un ensemble de 12 cratères à Henbury, au centre de l'Australie. La météorite est tombée il y a 4000 ans. BP, c'est-à-dire before present. Et la météorite s'est cassée dans l'atmosphère et elle s'est cassée en au moins 12 morceaux. Et ça fait 12 petits cratères. Et voici le plus grand de tous, il fait 180 mètres dans cette direction-là et 140 mètres dans cette direction-là. On va faire le tour du cratère. On est dans la savane aride de l'Australie. C'est joli. Juste à côté, il y a un petit cratère qui est là, qui fait 70 mètres de diamètre. L'échelle vous est donnée par un petit par le monsieur. Là, c'est mon ombre. Et on va regarder les cailloux qui sont là. Ça, c'est mon couteau qui vous donne la taille. Les cailloux sont cassés en 1000 morceaux. Et certains des 1000 morceaux sont ressoudés. Vous avez une brèche. Là, vous avez une pièce de 1 dollar australien avec la reine Elisabeth Jeune. Maintenant, elle est un peu plus faisandée. Je peux dire ça parce que moi-même, je commence à être bien faisandée avec des cheveux blancs, comme vous voyez, la barbe blanche. Et là, voilà, une brèche d'impact. Les cailloux sont cassés en 1000 morceaux. Là, ça a été ressoudé. Alors, sur cette photo aérienne, on voit qu'il y a plusieurs cratères. 12 ont été assez gros pour faire des cratères qu'on voit en bout de 4000 ans. Alors, il y a plusieurs tonnes de petits morceaux de météorites qui ont été récoltés. Le plus gros faisait 44 kilos. Et c'était une météorite de fer métallique. Donc là, c'est une vue globale de tous ces cratères. Et j'ai souligné les cratères qu'on peut reconnaître sur cette photo aérienne. Alors, il y en a qui se chevauchent. C'est pour ça qu'il y en a qui sont pas ronds. Le plus grand, en fait, c'est a priori l'intersection de 3 cratères. Le deuxième que je vous ai montré, celui près de laquelle j'avais trouvé la brèche, c'était là. Puis, il y en a des plus petits là. Alors, sur la Lune qui n'a pas d'atmosphère, ou sur Mars qui a une atmosphère très faible, en plus des cratères, comme on vient de voir, mais il faut une grosse météorite pour faire ça, parce qu'il faut qu'elle traverse l'atmosphère sans exploser. Ou si elle explose, il y a des morceaux suffisamment gros pour faire des cratères. Sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'explosion, donc la météorite, même si elle est toute petite, arrive au sol. Et ça fait des cratères de toutes les tailles, on en verra des très gros, hein, le plus gros cratère fait 2000 km de diamètre. Mais là, par exemple, vous voyez un cratère qui fait à peu près 10 mètres de diamètre. C'est-à-dire que la météorite qui est tombée dessus va faire à peu près 50 cm. Parce que le diamètre d'un cratère, on peut le voir avec des études analogiques, tout ça, fait à peu près 20 fois plus petit que le diamètre du cratère est 20 fois plus grand que le diamètre de la météorite. Donc une météorite d'un mètre va faire un cratère de 20 mètres. Donc là, vous avez un cratère de 10 mètres, donc la météorite fait à la louche, 50 cm. Là, vous avez un cratère qui fait 1,50 m, la météorite doit faire 7,5 cm. Là, vous avez un cratère qui fait 50 cm, la météorite doit faire 2,5 cm. Alors, il y en a beaucoup, parce que cette surface-là, ça fait à peu près 3 milliards et demi d'années qu'elle est à l'air libre, si je peux appeler l'air libre, la Lune. Donc, depuis 3 milliards d'années, elle reçoit les météorites et la moindre micro-poussière qui fait une étoile filante dans le ciel, sur Terre, qui ferait une étoile filante, fait des cratères sur la Lune. Rien que si vous regardez la carte des météorites tombées des 30 dernières années, tous ces météorites tombées sur Terre les 30 dernières années, on l'a déjà vu deux fois cette carte, ça aurait fait des cratères si c'était la Lune. Alors là, c'est une photo que sur Mars, l'atmosphère existe, elle est très faible, mais j'aime bien ce petit cratère-là. L'échelle vous est donnée par les traces de roues du robot, c'est Opportunity. Bon, mettons que ces traces de roues font 20 cm, hein. Donc, vous avez un cratère qui fait une petite dizaine de centimètres, qui a été fait par une météorite qui faisait à peu près un demi centimètre, c'est-à-dire un petit poids. La météorite est tombée avant que le robot ne passe, mais il y a des tempêtes. Sur Mars, l'atmosphère est humide, mais il y a quand même des fois du vent, d'ailleurs, il y a des dunes. Et cette météorite est tombée après la dernière tempête. Et les grandes tempêtes, il y en a tous les deux ans. Depuis, ça c'est une photo prise en 2005, ce cratère a certainement été effacé, parce qu'il y a eu plein de tempêtes à cet endroit-là. Mais vous avez un petit cratère tout jeune, là, tout jeune au sens humain du terme. Ce cratère peut-être de 2004, quelque chose comme ça. Donc la majorité de vous étaient déjà nés quand ce cratère s'est fait. Alors on peut faire encore plus petit. Ça c'est des morceaux de cailloux lunaires. L'échelle, c'est 500 microns, chaque photo fait un demi millimètre de taille, et vous voyez des cratères dessus. C'est-à-dire que vous aviez des grains de poussière qui sont tombés sur ces morceaux, ces grains de cailloux sur ce lunaire. Et par exemple, là, vous avez un beau cratère qui fait 70 microns de diamètre. C'est-à-dire que la météorite qui est tombée faisait 3,5 microns. 3,5 microns, c'est la taille de la moitié d'un globule rouge. Vous avez la moitié d'un globule rouge qui est tombé, mais à 20 000 km/h peut-être, sur un caillou lunaire, et ça fait des cratères. C'est tout pour les cratères simples. Est-ce qu'on fait une pause, là?
Oui. Alors, il y a une question que j'aurais pu poser au tout début, après la première partie, mais qui avait un peu en retard. C'est une question de Pierre et Chantal par mail. Est-ce que dès qu'on aperçoit une boule lumineuse dans le ciel, cela signifie qu'elle va finir sa course sur Terre, ou est-ce qu'elle peut juste frôler la planète et repartir dans l'espace?
Alors, elle peut repartir dans l'espace, mais la majorité, si on la voit, c'est que ça frotte bien. Si on la voit, c'est parce qu'il y a des dégagements de chaleur, la météorite chauffe, ce qu'on voit, c'est pas la météorite elle-même. En général, elle est trop petite. 20 mètres à 30 km, on la verrait pas beaucoup, hein. Mais par contre, elle est tellement chaude à cause des frottements qu'elle ionise l'atmosphère, et ce qu'on voit, c'est une boule de plasma. Et ça freine. Donc la météorite, elle arrive avec une certaine vitesse, et si elle est en frottant, elle divise sa vitesse plus bas que 11 km par seconde, qu'est-ce qu'on appelle la vitesse de libération, elle ne repartira pas. Alors si elle fait que tangenter la haute atmosphère, si elle est suffisamment massive pour que le ralentissement soit négligeable, elle peut faire que passer et partir. Mais en général, elle est suffisamment ralentie. Et en général, d'ailleurs, elle ne tombe pas, elle explose avant de tomber. C'est pour ça que les météorites, c'est rare, hein. Vous n'avez sans doute jamais ramassé de météorites. Alors tout le monde a déjà vu des étoiles filantes. Les étoiles filantes, c'est plutôt la taille d'un petit pois que la taille d'un immeuble de cet étage. Il y a une autre question.
Oui, il y a une autre question. C'est, y a-t-il une méthode pour différencier une pierre brûlée dans l'atmosphère et par exemple, une roche volcanique?
Absolument. Parce qu'il y a du verre volcanique. Les météorites sont, à l'observatoire, mais maintenant, on doit vous amener 50 fois par an, des morceaux de cailloux, en disant, j'ai trouvé ça, c'est une météorite. Moi, depuis que je travaille un peu là-dedans, on m'a dû m'en amener une centaine. Et sur la centaine qu'on m'a amenée, il y en avait une vraie. Ça se reconnaît bien. Un bijoutier sait reconnaître un vrai diamant d'un faux diamant. Un géologue qui a l'habitude des météorites. Alors, des fois, c'est pas toujours facile, hein. Il peut y avoir des faux diamants bien imités. Alors, il y a plein de critères, mais il n'y a pas de problème. Mais pour montrer la rareté des météorites, j'ai l'analogie suivante. J'ai dit tout à l'heure que la première météorite tombée en France, c'est 1492, donc il y a 500 ans, pour simplifier. Depuis ces 500 ans, on a vu tomber une météorite et ramasser une météorite une centaine de fois. Et une centaine de météorites, c'est pas beaucoup, hein, trouvées en France, soit parce qu'on l'a vu tomber, soit parce qu'on l'a trouvé, et garantie météorite. 100 sur 500 ans. C'est-à-dire, en moyenne, une fois tous les 5 ans. Depuis cette époque, Charles VIII, je sais pas quoi, les premiers ministres, qui s'appelaient superintendants des finances à l'époque, ont changé en moyenne, c'est un calcul, tous les 4 ans. C'est-à-dire que, statistiquement, on a plus de chances de devenir premier ministre que de trouver une météorite en France. Alors, c'est plus facile de trouver une météorite dans les déserts, parce que c'est un désert de sable et qu'il y a un caillou noir posé sur le sable, alors qu'une météorite en France, si elle tombe dans un champ, d'abord, vous la verrez pas bien, il suffit qu'il y ait un labour, etc. Et je parle pas si elle tombe dans une forêt, dans un taillis, un buisson de ronces. Trouver des météorites dans un pays végétalisé, c'est pas facile. Trouver dans le désert, c'est plus facile. Et là où c'est encore plus facile, c'est sur les glaciers. Parce que les glaciers sont tout blancs. Et si vous avez des cailloux noirs sur les glaciers, mais statistiquement, vous avez... Si vous avez des cailloux qui ressemblent à des météorites, les deux plus fréquences, c'est des nodules de sulfure, qu'on appelle de la marcassite. C'est un processus biologico-géologique qui se forme dans beaucoup de calcaire. Et sinon, c'est ce qu'on appelle du laitier, c'est des déchets industriels. Si vous vous mettez il y a 3000 ans, début de l'âge du bronze, il y avait des mines artisanales, des fonderies artisanales un peu partout, et des déchets de ces métallurgies gauloises, romaines, je sais pas quoi, il y en a partout. Ensuite, à partir du Moyen-Âge, il y a eu des maréchals ferrants qui faisaient des forges partout, et chaque village avait son maréchal ferrant et tout ça. Au 19e siècle, on a exploité le minerai de fer de Lorraine, qui est riche en phosphate, c'est très ennuyeux, on l'a exploité tardivement parce que le phosphate qu'il y a dedans empêchait de faire de la bonne métallurgie. Et puis un monsieur, qui s'appelait un Thomas, l'autre Martin, qui ont inventé un moyen d'enlever le phosphore des minerais de fer. Et donc l'industrie de Lorraine a fait des résidus très riches en phosphore, donc excellent engrais, mais qui contenaient des déchets ferreux, un peu comme ça. Et il y a des milliers de tonnes de déchets de la fonderie du 19e siècle, partis par le train, qui ont servi dans tous les champs de France et de Navarre jusqu'en 1950 à peu près, comme engrais. Alors des déchets industriels, ça va de l'âge du bronze au 20e siècle, il y en a partout en France. Donc 99 fois sur 100, d'après les statistiques que j'ai, quand vous avez quelque chose que vous croyez être une météorite, c'en est pas une. Je vous raconte une anecdote, c'est un jour, j'avais fait une conférence à TLM, une chose comme ça, TLM c'est la radio locale lyonnaise, c'était à la radio, c'était pas la télé, mais enfin bon, et je racontais les météorites, comme ça, et je reçois un coup de fil le lendemain d'un vieux monsieur, il me dit, voilà, j'ai 80 ans, j'ai une météorite, mon grand-père, alors vu qu'il avait 80 ans, son grand-père, etc., l'a vu tomber, il était dans les ponts des chaussées, il était là la nuit, mes enfants sont des cons, hein, heureusement ce téléphone, sinon il m'aurait vu tirer la gueule, je veux surtout pas qu'ils en héritent, est-ce que je peux vous la donner pour l'école normale supérieure? Je dis, oui, il n'y a pas de problème. Vous habitez où? Que j'aille voir si ça en est. Ils m'ont dit, ils habitaient à Lyon. Bon. Et il y avait toute une histoire. Le grand-père l'avait vu tomber la nuit. Et le matin, il est allé voir dans la direction. Ils ont trouvé un trou. Et au fond du trou, le caillou en question. Donc, il y avait une histoire. Là, je dis, c'est peut-être vrai quand même. Alors, je suis allé, je sonne à leur porte. Je rentre dans l'appartement, un petit appartement. Il y avait le séjour en face, la télévision. Et un caillou trônant sur la télévision. Même à 5 mètres de diamètre, j'ai reconnu un nodule de sulfure de marcassite. J'ai dit, c'est l'objet, ils disent oui. J'étais vachement embêté, parce que c'était évident que c'était pas une météorite, comme quand vous avez de la verroterie que vous donniez aux Indiens, c'est évident que c'est pas des émeraudes et des diamants. Alors j'ai dit, écoutez, faut que je la prenne pour la couper, etc. Mais c'était un sulfure. Donc il y avait une histoire du grand-père d'un vieux monsieur qui s'était transmise, et c'était pas une météorite. Alors qu'est-ce qu'il avait vu? Je sais pas. Donc, trouver une météorite, c'est peu probable. Mais, on peut en trouver. Il y a d'autres questions?
Oui. Oui. Il y a une troisième question de Gifereux qui demande, est-ce que c'est la température de la friction qui fracture les météorites?
C'est plus compliqué, c'est très compliqué. La température, donc, ça doit aider, parce que si c'est chaud d'un côté, froid de l'autre, etc. Mais il y a plus que ça. C'est qu'il y a un côté où la pression est très très forte, et puis de l'autre côté, par effet de, c'est comme les ailes d'avion, il y a une dépression. Donc il y a le devant de la météorite est surcomprimé et de l'autre il est déprimé. Donc ça joue aussi. Et puis il y a des phénomènes de vibration quand ça freine. Mais le fractionnement des météorites, c'est très étudié, non pas pour les météorites, mais pour les stations spatiales qui rentrent dans l'atmosphère. Et donc et beaucoup de recherches doivent être plus ou moins classées secrets, parce qu'un missile qui rentre dans l'atmosphère, c'est pareil, il faut pas qu'il se casse. Mais c'est pas simplement la chaleur, mais ça doit y jouer. Autre question?
Alors une petite, c'est est-ce que tu as déjà vu une météorite? Alors j'imagine une météorite tomber devant tes yeux et
alors, j'ai
aller
déjà
la
vu...
ramasser après.
Non, alors j'ai des météorites chez moi, qui sont tous des cadeaux, parce que j'en ai jamais trouvé. Mais j'ai vu des bolides, pas que chez la ministre, mais j'ai vu des bolides, j'en ai vu 3 dans ma vie. Alors faut passer souvent la nuit dehors, si possible hors des villes. Mais je n'ai jamais vu la traîner et la météorite tomber. Là encore, pour vous raconter l'histoire, il y a peut-être une dizaine d'années, il y a une météorite comme ça qui a été vue par la moitié de la France, enfin ceux qui avaient les yeux braqués, ont vu la météorite tomber, et tout le monde a cru l'avoir vue tomber derrière la colline de là. Parce que dans le ciel, quand vous avez un objet lumineux à 40 km dans le ciel, vous pouvez pas savoir s'il est loin ou pas loin, vous connaissez pas sa taille. Et pour une raison X ou Y, il y a quelqu'un qui a assuré qu'elle était tombée, c'était au sud de Bourges. Il y a un petit village au sud de Bourges, je sais pas comment il s'appelle, et dans le Figaro, il y avait un article, la météorite que tout le monde a vue est tombée, via machin chose, au sud de Bourges. Le lendemain, il y avait 500 personnes chercheurs de météorites qui étaient dans la banlieue sud de Bourges pour chercher. Et en fait, les gens, s'ils avaient été astucieux, ils auraient vu, je l'ai fait a posteriori, que ça pouvait pas tomber au sud de Bourges. Parce qu'avec le web, maintenant, il y a plein de gens qui ont décrit ce qu'ils ont vu. Et il y a quelqu'un qui disait, je dis n'importe quoi, à Saint-Étienne, et j'ai vu la météorite, elle arrivait du nord, elle partait vers le sud. Alors moi, je prends une carte de France, je suis pas le premier à avoir fait ça, hein. Je l'ai fait, mais il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi, et il prend un trait nord-sud à Saint-Étienne. Il y a tellement de gens qui l'ont vu que si vous voyez tous ces traits, vous voyez que tous ces traits se croisaient à peu près au-dessus d'Albi. Et ce que la météorite, le flash lumineux que les gens ont vu, c'est passé, je sais pas, à 20 km au-dessus d'Albi. Mais c'était vu comme ça se passe à 30 km d'altitude par la majorité des gens qui regardaient. Donc là, 2-3 jours après, quand les gens ont fait, plein de gens sont allés au-dessus de, dans les environs d'Albi, personne n'a rien trouvé. Alors sinon, maintenant, il y a un projet qui s'appelle Fripon. Tu connais les initiales, ce que ça veut dire, Fripon? Five.
Bon, j'ai oublié l'acronyme.
Bon, c'est un acronyme. Il y a, par département, une caméra qui affiche eyes, qui analyse le ciel en permanence. Alors, des fois, il voit rien parce qu'il y a des nuages, des fois, il voit rien parce que c'est le jour, et sinon, même quand c'est la nuit, il voit des avions, des machins qui passent. Mais il enregistre tout. Si c'est un avion qui passe, mettons qu'il a 10 000 mètres d'altitude, on le verra à Lyon, on le verra pas à La Rochelle. Mais s'il a 30 km, on le verra de Lyon et de La Rochelle. Et donc, c'est relié à un ordinateur, et quand il y a quelque chose au même moment qui est visible de plein d'endroits, alerte, et automatiquement, il y a plein de photos qui sont faites, les gens calculent la trajectoire et disent s'il est tombé quelque chose, et on peut calculer où c'est tombé à, allez, 5 km près. Et pour l'instant, il y a 2-3 trucs qui ont été faits en France, 2-3 chutes, on a dit, s'il est tombé quelque chose, c'est là, un carré de 5 km. Et si on va dans ce carré, pour l'instant, je crois qu'on n'a jamais rien trouvé en France. Mais il en a été trouvé en Suisse, une, ou en Italie, je ne sais pas. C'est prometteur. Mais le problème, si vous prenez 5 km de côté, il y a des champs, il y a des villages, il y a des propriétés privées, surtout que les météorites, ça se vend cher, un paysan dit, sortez de mon champ, c'est une météorite, elle est à moi! Surtout si c'est en Auvergne, vous imaginez. Je suis auvergnat, je me permets d'accueillir les auvergnats. Maintenant, on devrait pouvoir trouver plus de météorites parce qu'on va pouvoir calculer leur point de chute, si chute il y a eu. Autre question?
Oui, alors j'ai oublié de dire, la précédente, c'était une question de Noémie sur Twitter, et on a une question par mail de Gérard qui demande « Que devient la matière de la météorite au moment de l'impact ?» Donc ce qu'on ne retrouve pas, les 0,1% qui restent, on peut bien
voir. Voilà, alors quand la météorite atteint le sol pour faire un cratère, alors si le cratère n'est pas trop gros, par exemple le météore cratère que j'ai montré, la météorite est cassée en 1000 morceaux, mais on retrouve des morceaux. Donc si vous promenez, c'est fini maintenant, mais si on se promenait il y a 20 ans avec ou 50 ans avec un détecteur métallique, et c'est une météorite, on a trouvé plein de morceaux, mais pour les petits échantillons, les petites météorites, parce que l'énergie est pas assez grande, tout n'est pas fondu. Mais si vous avez une météorite, je vais vous montrer des cratères de 300 km, là, la matière météorite est entièrement vaporisée. C'est tout.
C'est tout pour...
C'est tout pour aujourd'hui. Ah, il y a une heure que je parle déjà, mon Dieu. Mais c'est presque fini. Donc, les cratères complexes et les bassins à anneaux multiples. Eh bien, les cratères moyens, qu'on appelle complexes, c'est pas des bols, comme vous avez ici. C'est beaucoup plus grand. Un fond plat, un piton au centre du fond plat, et des bords avec des terrasses. Là, c'est le cratère Aristotle qui fait 58 km de diamètre, c'est sur la Lune. Ça, c'est l'équivalent terrestre, c'est en Bavière, hein. Ceux qui habitent dans l'est de la France, et par exemple demain, hein, si vous partez de Colmar en 3 heures, vous êtes là, vous allez sur la colline au-dessus, hein, vous voyez la plaine avec des champs, le piton central avec la vieille ville d'Emsheim de Stanheim, qui est bâtie dessus, et les quartiers modernes qui ont envahi la plaine, et là vous avez le bord du cratère. Alors il y a toute une transition entre le cratère simple, le bol, et le cratère complexe qu'on vient de voir. Cette transition est due à deux choses. D'abord, plus la météorite est grosse, plus le cratère est grand, plus l'énergie est importante, et plus la partie de la Terre, de la cible fondue est importante. Si c'est une petite météorite, ça ne fond pas. Si c'est une grosse, ça fond le substratum, ça fond le sol. Et donc, un cratère de météorite d'une bonne taille devait être, pendant un certain plan, d'un lac de lave, fondue. Donc, évidemment, c'est à peu près plat, sauf si ça glougloute, etc. Et deuxièmement, il y a des phénomènes de rebond qui peuvent apparaître, mais ici, il n'y en a pas. Donc là, vous avez l'accumulation de produits à moitié fondue. Là, 15 km, vous avez des quartiers et des machins à moitié fondus également, le fond du cratère. Et là, c'est Copernic qui fait 100 km de diamètre. Vous avez là, toute beauté, le fond plat, plein de trucs fondus, le piton au centre, on va voir qu'est-ce qu'il fait là, et les bords qui sont faits avec, vous voyez, des terrasses, comme s'il y avait des effondrements, des marches d'escalier, que les bords du cratère étaient effondrés vers le centre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le début de la formation du cratère, c'est comme qu'on a vu tout à l'heure. Mais après, ça continue. C'est que là, ce cratère, il fait beaucoup plus grand, et il y a un phénomène de rebond. Le milieu, paf, il rebondit, un peu comme quand on jette un petit caillou dans l'eau, c'est une analogie, des fois, pic, ça remonte au milieu. Donc, ça peut faire ça. Vous voyez, les gravier est importante, et plus la partie de la Terre, de la cible, fondue est importante. Si c'est une petite météorite, ça ne fond pas. Si c'est une grosse, ça fond le substratum, ça fond le sol. Et donc, un cratère de météorite d'une bonne taille devait être, pendant un certain plan, d'un lac de lave, fondue. Donc, évidemment, c'est à peu près plat. Sauf si ça glougloute, etc. Et deuxièmement, il y a des phénomènes de rebond qui peuvent apparaître, mais ici, il n'y en a pas. Donc là, vous avez l'accumulation de produits à moitié fondus. Là, 15 km, vous avez des quartiers et des machins à moitié fondus également, le fond du cratère. Et là, c'est Copernic qui fait 100 km de diamètre. Vous avez là, toute beauté, le fond plat, plein de trucs fondus, le piton au centre, on va voir qu'est-ce qu'il fait là, et les bords qui sont faits avec, vous voyez, des terrasses, comme s'il y avait des effondrements, des marches d'escalier, que les bords du cratère étaient effondrés vers le centre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le début de la formation du cratère, c'est comme qu'on a vu tout à l'heure. Mais après, ça continue. C'est que là, ce cratère, il fait beaucoup plus grand, et il y a un phénomène de rebond. Le milieu, paf, il rebondit, un peu comme quand on jette un petit caillou dans l'eau, c'est une analogie, des fois, pic, ça remonte au milieu. Donc, ça peut faire ça. Vous voyez les gradients de pression, parce que ça fait ça à l'état solide. La roche n'est pas fondue, c'est pas liquide. Mais vous déformez un solide, je peux pouvoir prouver tout à l'heure que c'est un solide, comme si c'était du liquide. Tellement les forces mises en jeu sont énormes. Et puis, dans les débris qui jaillissent, il y en a une bonne partie qui est fondue. Et quand ça retombe, les machins fondus recouvrent tout, et ça fait une plaine. Donc, vous avez un, et puis les bords s'effondrent. Et ça fait des terrasses pour les géologues, vous voyez, des failles normales dues à l'effondrement. Pour les géologues encore plus calés, en géologie, génie civil, des failles comme ça vers une cavité, ça s'appelle des failles panaméennes. Parce que quand Ferdinand de Lesseps, français, responsable, son corps défendant d'un scandale au canal de Panama au début du XXe siècle, creusait donc le canal de Panama, et les bords s'effondraient au fur et à mesure. T'avais très bien marché au canal de Suez, comme il faisait, parce qu'il n'y a pas de montagne à côté. Canal de Panama, c'est dans la montagne. Et il a eu, et c'est pour ça qu'il a fait faillite, il y a eu un scandale financier, à cause de ces failles qu'on appelle maintenant panaméennes. Donc voilà ce que c'est qu'un cratère complexe. Alors, on va visiter quelques cratères complexes terrestres. Alors, celui-là, c'est en Hemel, c'est juste à côté de Steinheim, et c'est le même âge. Donc, en fait, ça devait être un gros astéroïde. Il y a à peu près 15% des astéroïdes, ou 10%, je ne sais plus, qui ont des satellites. Par exemple, Ida, non, je sais plus, oui, ça doit être Ida, qui est un satellite qui fait 10 km, un astéroïde qui fait 10 km de diamètre, a un petit satellite qui en fait un qui lui tourne autour, qui s'appelle Dactyl. Donc s'il a un machin de 10 km avec un petit qui tourne autour qui en fait un, ben ça fera deux cratères. Et a priori, c'est ce qui est arrivé. Le grand, qui doit faire 24 km, donc la météorite faisait à peu près un kilomètre de diamètre, et il y en a un petit, Steinheim, qui est tombé, c'est le cratère qu'on a vu, où il y avait le village sur le piton central. Il est tombé il y a 15 millions d'années, et le cratère est là. Alors, morphologiquement, on voit plus grand-chose, même de satellite. Par contre, si on se promène, il y a de très beaux cailloux. Là, vous avez une carte géologique, on ne peut pas détailler. Mais tout ce qu'on voit là, c'est des débris ou des cailloux cassés en mille morceaux. Et on peut en ramasser comme on veut. Alors, il y a des endroits qui sont protégés, mais il y a des endroits dans les champs, Il y a même une carrière qui sert à empirer les routes. Et vous pouvez trouver des cailloux, des brèches, cassées ou fondues par la météorite. Alors, dans les débris qui sont explosés, qui ont jailli, il y en a qui étaient fondus. Et qui ont tournoyé dans l'atmosphère et qui sont retombés. Là, je vous mets une bombe volcanique, c'est de la lave, enfin, Auvergne, hein. La lave fondue qui a tournoyé, qui est retombée. Et là, c'est une bombe météoritique, si on peut dire. C'est de la roche de la Terre, hein, fondue par l'impact, qui a tournoyé avant de retomber. Et j'ai ramassé sur le bord d'une route, il y avait des travaux, je les ai tranchés, et j'ai ramassé cette bombe météoritique, comme ça. Donc, allez vous promener en Bavière, c'est bien. Alors, vous pouvez en chercher des diamants. Je ne sais pas si vous savez, mais le carbone existe sous plein de formes cristallines. Les deux plus connus, c'est le graphite, le charbon, et le diamant. Si vous prenez du charbon, une mine de crayon, par exemple, c'est du graphite pur, une mine de crayon très grasse, hein, du 4B, c'est quasiment du graphite pur, vous le comprimez à très, 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 très haute pression, il devient du diamant. Et la pression développée par l'impact qu'a fait le cratère d'Uris il y a 15 millions d'années a développé du diamant. Dans la cible, dans laquelle il y avait du graphite, et il y a des petits cristaux de diamant qui ont été trouvés. Ils sont suffisamment petits, là, vous voyez, un dixième de millimètre, vous ne ferez pas un gros bijou avec ça, mais on peut faire des diamants. Et un de mes fantasmes, c'est qu'il y a une grosse météorite qui tombe sur une couche de charbon, dans un endroit où il y a une couche de charbon qui affleure. Et il y a un cratère dont on parlera tout à l'heure, où il y a des milliards de carats de diamants, c'est en Russie, mais c'est pas du diamant de qualité gemme, c'est du diamant industriel, mais qui est exploité, mais c'est pas du diamant de qualité gemme. Alors, ce cratère d'Uris, donc, vous voyez où c'est, là, vous avez Munich, là, vous auriez l'Alsace, qui est là, le Ris est là, on va aller ici, donc, en République tchèque, un peu au nord de Prague, là où il y a la rivière, la Moldau, qui passe, c'est une région qu'on appelle la Moldavie, et donc, on va aller là. Et si on va là, dans des terrains, on voit les terrains qui ont 15 millions d'années, c'est-à-dire contemporains de l'impact qui a eu lieu là, c'est des sables et des choses comme ça. Si vous regardez dans une carrière de sable, vous voyez des petits cailloux. Et certains de ces petits cailloux, c'est des morceaux de verre, mais du verre de 15 millions d'années, qui est verdâtre. Voici un morceau de verre qu'on trouve là, et c'est transparent. Vous avez mes doigts, et vous voyez le morceau de verre transparent. C'est connu depuis toujours, ça s'appelle une tectite. Les gens ne savaient pas trop ce que c'était dans le temps, mais on en faisait des bijoux, c'était exploité par les gens du coin. C'était une tectite. Alors qu'est-ce que c'est que cette tectite? Quand vous avez un cratère, il y a peut-être un certain pourcentage, j'ai dû le mettre, qui sont fondus. Et on peut faire, quand on fait les simulations, on voit que les plus rapides des éjecta fondus sortent du cratère avec une trajectoire balistique, quittent l'atmosphère, font une espèce de parabole, comme les missiles intercontinentaux, et vont retomber 200 à 2000 km plus loin. Et c'est, si c'est fondu, ben ça fait ce genre de truc. Il y a quatre grands champs de tectites au monde, plus quelques petits, mais quatre grands. Un aux USA, un en Afrique de l'Ouest, un en Europe centrale, dû au cratère allemand, et un, le cratère est inconnu, qu'on trouve dans le sud-est asiatique. Donc vous voyez ce qui est arrivé avec le risque, vous aviez la météorite qui est arrivée à l'Obic. Il y a plein de débris qui ont jailli, qui sont sortis de l'atmosphère, fondus, qui sont solidifiés là-haut, et qui sont retombés. Quand vous êtes hors atmosphère sur une trajectoire parabolique, quelle est la gravité, monsieur mon voisin, sur une trajectoire parabolique? Oula. Il y a accélération zéro parce qu'il n'y a pas de frottement. Comment?
Non, je...
La gravité est nulle, comme dans les avions 0G du CNES.
Ah, mais au point de...
Quoi, au point de?
Au sommet de la parabole.
N'importe où sur la parabole. Dans 0G, tu fais une parabole pendant 20 secondes, t'as 0G. T'es pas en régime stationnaire au sommet de la parabole.
Oui, c'est vrai.
Donc, pendant toute une partie, là, vous aviez des roches fondues qui avaient une gravité nulle. C'est pas qu'elles étaient loin de la Terre, mais elles étaient sur une trajectoire balistique. Et que fait quelque chose de liquide qui se solidifie?
Sphère.
Comme gravité zéro. Ça fait une sphère. Et voilà une tectite sphérique. C'est pas une crotte de bique, hein. C'est une tectite. Alors il y a des cassures, justement, à la rétraction thermique. Et ça fait une sphère comme la plus célèbre sphère microgravité, le whisky du capitaine Haddock. Vous savez, si vous gelez ce whisky, ça fait une boule de glace de whisky gelé. Donc, c'est ce qui est arrivé. Mais alors, si cette boule tourne sur elle-même, elle va un peu s'aplatir et ça va faire un ellipsoïde. Alors, je vous montre un ellipsoïde, ça va être le 3. Ça s'est vu de par-dessus, la vue par la tranche. C'est une sphère liquide qui a tourné suffisamment vite, ça fait un ellipsoïde de révolution, et si ça gèle là-dedans, ça retombe par terre, ça fait un ellipsoïde. Alors, des fois, si ça tourne très très vite, la matière de l'ellipsoïde va se concentrer sur les bords. Et ça fait comme un disque déprimé au milieu avec un bourrelet sur les bords. Et puis des fois, ça tourne très vite, l'ellipse va pouvoir se séparer en deux, comme deux gouttes. Alors si ça ne se sépare pas, ça fait ça en détectite, en haltère. Et si ça se sépare, ça fait en poire. Donc vous avez toute une zoologie détectite. Ça va de la poire, etc., etc. Et voilà, là, c'est une moldavite, donc du oris, avec une forme de belle poire, c'est transparent, c'est ce que j'appelle une larme de la terre, c'est très beau. Autre exemple de cratère de belle taille qui est sur Terre, c'est en Afrique du Sud. Alors là, il est très vieux, enfin, 2,2 milliards d'années, pour simplifier. Très vieux pour les non-géologues. C'est quand même la deuxième moitié de l'histoire de la Terre, hein. Mais voilà. Alors, on voit pas grand chose. Ça, c'est une vue satellite, on voit pas grand-chose. Mais on voit bien, j'ai souligné en vert, qu'il y a quand même quelque chose de vaguement circulaire, avec les yeux de la foi. Et s'il se prolonge chez segments verts, ça fait les segments rouges, ça me fait un cratère avec des anneaux, comme ça. Alors, voici une interprétation de ce cratère. Vous avez ça, c'est le piton central. Et puis là, c'est différents machins, des différents niveaux des terrasses. On peut comparer ça avec le cratère Copernic, le piton central, les différentes terrasses. Alors ce cratère, on peut y aller. Actuellement, l'érosion est au niveau du trait rouge, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus du trait rouge a disparu. Mais si vous vous promenez là, vous pouvez voir donc ce qu'il y a sous le trait rouge. Et on va y aller. Et on va aller à trois endroits différents, quelque part par là. Alors vous voyez, quand on vous demande quel est le diamètre du cratère, par exemple, de Copernic, quelle est la cavité initiale? Parce que initialement c'est ça, puis ensuite il y a ces effondrements et ces failles panaméennes. Alors, le bord du cratère c'est 3, mais a priori le bord de la cavité transitoire c'est peut-être plutôt 2. Il y a une grande discussion, quelle est la taille initiale du cratère avant ces effondrements panaméens. Bon, c'est un détail. Alors revenons à cratère, la cavité initiale de 150 à 200 km, c'est pas facile de savoir. Et on va d'abord aller visiter ici, le site de Winterskroon. Je parle mal l'africain ici. Alors on est sur le bord de la route, et on voit des choses bizarres. Vous voyez, la roche se découpe en cône, avec la pointe dirigée vers l'ouest. Alors on s'approche, un couteau qui donne l'échelle. Des cônes, la pointe dirigée vers l'ouest. Ça s'appelle des shatter cones. Voilà d'autres. Comment fait-on des shatter cones? Théoriquement, c'est facile, je n'ai jamais essayé. Imaginez un bloc de verre, transparent, pour voir l'intérieur, mettons 50 cm de diamètre, vous demandez à un verrier de faire ça, un bloc de verre 50 cm de diamètre, et vous donnez un super coup de marteau dessus. L'onde de choc va faire des fractures qui vont partir du choc et qui vont se propager, ça va faire un cône. Et si la fracture, qui se propage très très vite, arrive sur une impureté, je sais pas quoi, elle va se diffracter, et à niveau où elle se diffracte, ça va faire des fractures secondaires qui font des cônes secondaires. J'aimerais bien faire l'expérience en vrai. Vous pourriez pas faire ça pour la prochaine fête de la science?
On va contacter les verriers.
Voilà, nous faire un morceau de verre. Mais on peut faire l'expérience qu'une fois. Hein. Donc c'est ça, des shatter cones. Il faut une onde de choc sur la Terre. Et on connaît que deux choses qui font des shatter cones. Les impacts de météorites, les explosions nucléaires souterraines. Alors, dans un cratère idéal... Vous avez, là, j'ai fait un cratère simple, c'est plus facile à dessiner. Vous avez le cratère, le remplissage, les parties fondues. Et les shatter cones sont dirigés vers le point d'impact. Comme ça. Ici, les shatter cones sont dirigés vers l'ouest, à l'horizontale. Presque horizontale. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais les couches, regardez, ont été rebiquées. Les couches sont presque verticales. Et d'ailleurs, si vous regardez, vous avez des couches sédimentaires, elles sont très vieilles, mais c'est des couches sédimentaires qui sont verticales. Et dans ces couches sédimentaires verticales, le géologue sait reconnaître le haut d'une couche et le bas d'une couche, ce qu'on appelle des critères de polarité. On apprend ça à nos étudiants de L1, ils comprennent un L3, et encore, mais on leur apprend L1. Et il y a le haut et le bas. Et nos shatter cones, ils sont dans cette position-là. si on remet les couches à l'endroit, c'est-à-dire le haut en haut et le bas en bas, et les shattercones, ils sont comme ça. Regardez les dispositions théoriques des shattercones par rapport à l'impact, ça colle. L'impact, il est là, et les couches ont été rebiquées par le rebond dont je parlais tout à l'heure, et les couches ont été verticalisées, et ont emmené avec elles leur... Alors, on va aller, ça, c'est le site de Venterskron. On voit le site de Bobar-Yarand. J'ai pas fait de programme. C'est l'endroit. Ce qui est gris, là, c'est des éjectas. Alors, cassés et ou fondus. C'est la limite entre les éjectas cassés et ou fondus et la roche qui n'est simplement que redressée. Mais on la reconnaît encore. Ici, c'est cassé. Pas trop fondu, ici. Et là, on reconnaît les couches redressées à la verticale, mais pas trop cassées. Donc, c'est assez extraordinaire de voir ça. La roche cassée en mille morceaux. Et les quartzites. Pas cassées, mais simplement redressées. Et le plus extraordinaire, c'est ici. Les carrières de Savalmento et de Loikop. On est dans le piton central. Mais les fractures, la roche était cassée. Fracture qui peut faire 5 cm de large, voire 5 mètres de large. Et dans ces fractures, il y a ce qui était au-dessus, fondu, ou à moitié fondu, qui est tombé dedans. Et regardez ce que ça donne. Alors, une surface horizontale, vous avez la surface de la roche, c'est du gneiss en l'occurrence ici, et vous avez la fracture pleine de roches fondues, c'est noirâtre, et de roches pas fondues. Alors là, la fracture est assez large. Là, vous l'avez allé en deuxième dimension, ici une fracture subverticale, avec ce remplissage. Ça peut être très étroit, et ça peut être très gros. Là, vous avez la fracture qui fait au moins 5 mètres de large. Et regardez la taille des blocs qui étaient mélangés avec la lave, si je puis dire, fondue. Et la fracture était suffisamment grosse pour laisser passer un bloc comme ça. L'échelle vous est donnée par cette dame à côté. On va voir un autre géant qui est moins érodé que Redford, parce qu'il est plus jeune. C'est Popigaï, qui est en Sibérie. Il ne fait que 90 km de diamètre, mais il a un âge de 35 millions d'années. Et comme il était moins érodé, il reste beaucoup plus de débris d'éjecta qu'en Afrique du Sud. Les éjecta, pour les trouver en Afrique du Sud, il faut aller là où ça tangente ou dans les fractures, sinon ils ont tous disparu. Alors voici une image radar qui montre le relief, on voit quand même la structure circulaire. Alors là, c'est une carte géologique, on va détailler. On va aller regarder ce qui se passe dans ce petit carré. Quand vous avez ce qu'ils appellent 4, 4, c'est grosso modo la roche fondue, partiellement fondue. Ils appellent ça la tagamite, mais c'est roche partiellement fondue. Et par-dessous, il y a du, je sais quel numéro, là, c'est du 5. 5, c'est de la brèche pas fondue. Donc, brèche pas fondue, avec par-dessus, des machins à moitié fondus. Brèche pas fondue. Par-dessus, la roche fondue. Les sapins, là, qui vont peut-être 20 mètres de haut, nous donnent l'échelle. Regardez la taille des blocs, côté propulsé en l'air et qui est sans retomber. C'est monstrueux. Voilà, donc c'est des vues d'hélicoptère, la roche fondue, et la roche simplement cassée, mais pas fondue. La forêt. Voilà, c'est phénoménal. Et là, c'est rien que de la roche fondue. Partiellement, il y a quelques blocs qu'on échappe. Vous savez, quand de la roche fondue se refroidit, ça peut faire ce qu'on appelle des prismes ou des orgues. Il y en a dans plein de types de roches, des basaltes, là c'est des phonolites. Et là, on comparait des orgues volcaniques, en bas à droite, des orgues dus à la solidification et au refroidissement du solide, dus à l'impact. Et c'est ce cratère-là qui a fait des milliards de carats de diamants, hélas de qualité industrielle. Alors on peut comparer ce cratère de Popigaï à Tycho, qui a la même taille. 90 km de diamètre. Tycho, c'est le cratère qu'on voit sur la Lune avec une simple paire de jumelles. Il est dans l'hémisphère sud de la Lune, c'est-à-dire pour nous qui sommes dans l'hémisphère nord, il sera plutôt vers le bas de la Lune. Et il est très brillant et il y a des raies qui partent, c'est très joli. Alors ça, c'est vu au télescope, n'importe qui peut voir ça, vous allez dans le club d'astronomie du coin, Vous êtes lyonnais, et ben il y a la SAL dont le centre, il y en a deux, des clubs d'astronomie, rivaux mais à Nice.
Il y a le CALA.
Il y a le CALA et la SAL. Le CALA est basé au planétarium et la SAL est basée à l'observatoire.
Et il y a un club dans les monts du Lyonnais aussi.
Voilà. Donc pour les gens de la région lyonnaise, il n'y a aucun problème pour regarder Tycho au télescope. Voici Tycho au télescope. Et vous voyez que partent de Tycho des rangées de cratères alignés, comme ce qu'on a vu tout à l'heure sur Ganymède et Callisto quand c'était une comète. Mais là, c'est dirigé vers le cratère. Alors là, c'est des vues rasantes faites avec les fusées et les sondes qu'on tournait autour de la Lune. Vous avez le piton central et la plaine de lave à moitié fondue. S'il y a des gens qui connaissent les pays volcaniques, si parmi les auditeurs il y a des Réunionnais, ça ressemble à ce qu'on voit au fond de l'enclos autour de la chapelle de Rosemonde. Hein, c'est un lac de lave fondu, mais sauf là que la lave, c'était dû à l'impact. Alors là, c'est extraordinaire, c'est sur le bord du cratère. Il y a plein d'éjecta à moitié fondus qui sont retombés sur les bords du cratère. Le temps qu'ils montent, qu'ils redescendent, c'est peut-être, je sais pas, une minute après, hein, ou 30 secondes après. Et comme c'était encore fondu, ça a coulé sur les bords, et vous avez des trucs, on dirait des coulées de lave, qui ont coulé, de la fluidalité, mais l'énergie, là, c'est dû à l'impact. Et autour de ce cratère, il y a ce qu'on appelle des alignements de petits cratères, c'est des cratères secondaires. Quand vous avez l'explosion, vous avez plein de débris qui partent, et vous avez des chapelets de débris qui partent dans la même direction. Et ça fait donc, comme ça, il doit en avoir un mieux, voilà. C'est des blocs. Alors, vous voyez, par exemple, le plus gros bloc qu'on a vu à Popigal, qui faisait quand même 50 mètres de diamètre. Si vous avez un chapelet de machin comme ça, qui tombe, ça fait ta. Là, c'est quasiment la mitraillette. Et si vous voulez voir de beaux éjectats, et si vous voulez avoir un bon bilan carbone, parce que Popigal, l'Afrique du Sud, ça fait loin, on ne parlait pas de l'Australie, il faut aller à Rochechouart, dans le Limousin. Alors, morphologiquement, on ne voit rien, parce que le cratère est vieux, il est tout érodé. Alors, qu'est-ce que les roches sont belles? D'abord, il y a un beau château. Le cratère devait faire 20 km de diamètre, mais c'est indirect, parce qu'on ne voit plus. Il a à peu près 200 millions d'années, c'est le début des dinosaures. Mais les roches sont très belles, et là où on les voit le mieux, parce que le bocage limousin, ça fleure pas très bien, c'est les bâtiments. Par exemple, ça, c'est de l'église de Précignac. Et l'église de Précignac est faite en brèche. Brèche, alors pas fondue, voilà, brèche absolument pas fondue ici. Et la brèche à moitié fondue, vous voyez que ça a coulé entre les blocs. Vous auriez envie de prendre une masse et d'enlever le cratère et de démonter l'église. Bon, prendre des photos, ça marche. Vous avez des chatercones. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut dans le Limousin. Alors, pour les cratères encore plus grands, le piton central devient un anneau. Là, vous avez sur la Lune le cratère de Schrödinger avec un superbe anneau central. Là, vous savez, sur la Terre, alors pareil, un météorite double. Probablement que c'était un astéroïde avec un satellite. Et le plus grand a son anneau central. Alors, maintenant, c'est dans le Québec, il y a un lac. On appelle ça des bassins. Comment ça se fait, l'anneau central? Alors, le cratère simple, c'est tout simple, c'est le trou d'explosion, c'est le trou d'oubli. J'allais en Syrie, il y en a plein ces temps-ci. Le cratère complexe, c'est le piton central qui monte, et qui remonte plus ou moins. Et le bassin d'eau multiple, c'est le cratère central, le piton central qui remonte tellement, après il redescend, et ça fait des ondulations sur les côtés. C'est le bassin à anneaux. Alors, le plus beau sur Terre que j'ai failli voir, il est en Australie. Je dis que j'ai failli le voir parce que je suis allé jusque là, au lieu d'étoile rouge. Mais là, il y a une rivière. Et la veille, il y a eu un énorme orage. La rivière, pour passer à gué, en général, elle est sèche, était en crue. Et on n'a pas pu y aller. Donc, ce magnifique cratère, je ne l'ai vu que de loin. Mais j'ai un copain qui était allé quelques années avant et qui avait pris un avion au-dessus, un hélicoptère, qui avait fait des photos aériennes. Donc là, vous avez le cratère, que je suis avec la flèche blanche. Et là, vous avez l'anneau central au milieu. Donc moi, ce que j'ai vu, c'est l'anneau central. C'est décevant. Heureusement que je suis pas en Australie, rien que pour ça. Et l'Oued en cru, quelque part. Mais en vue aérienne, regardez comme c'est beau. Le bord du cratère étant là. Le bord du cratère, on ne le voit pas bien, mais l'anneau central, c'est des grès très durs qui sont en relief, parce que l'érosion les a épargnés. Et le plus beau, le plus grand des bassins anneaux multiples, il est sur la Lune, c'est Oriental V. un, deux, trois anneaux concentriques, fait 900 km de diamètre. C'est-à-dire, si l'impact qui a fait ça, 3,8 milliards d'années, tombait sur Bourges, Lyon serait par là, Nice et Brest seraient là. Donc, si ça tombait, plus de France. Alors, on peut se demander d'où viennent ces objets choqueurs à l'origine de tous ces cratères. Je vais vite. Oh, ben, j'ai encore 3 minutes, j'avais 1h30, encore 3 minutes.
Ah, mais il y a des questions après.
Ah, mais il y a des questions, ben, eh bien, ils viennent de la ceinture des astéroïdes. Je me dépêche, je vais pas faire. Dans la ceinture des astéroïdes, il se passe des phénomènes compliqués, des collisions, qui fait que des astéroïdes, au lieu de bêtement tourner en rond ici, ou bien tourner en rond sur l'orbite de Jupiter, c'est autre chose, eh ben, ils se dévient, et ils prennent des orbites elliptiques, et qui, de temps en temps, recoupent l'orbite de la Terre. C'est tout à fait le cas de l'impacteur de Tchelyabinsk. Donc, voilà l'origine. Peut-on évaluer les risques? Alors, quand on regarde les cratères terrestres et lunaires, on peut faire des calculs de probabilité. C'est des calculs de probabilité. Par exemple, en voiture, vous crevez, en moyenne, on va dire, tous les 100 000 km. Mais vous pouvez très bien crever deux jours de suite. Ou faire 200 000 km avec la même voiture et ne pas crever. Là, c'est vraiment une statistique. Et bien, statistiquement, les objets de moins de 50 mètres, ça arrive pas au sol, ça fait des Tchelyabinsk. Et ça arrive assez souvent. Rien que vous avez vu la carte de 30 ans, hein, tout à l'heure. 50 mètres, à peu près, c'est de 100 000 ans. C'est la Tunguska. 100 mètres de diamètre, c'est la taille de l'objet, tous les 1000 à 100 000 ans. C'est statistique, hein. C'est le météore cratère. Ça fait déjà l'équivalent de 40 mégatonnes de TNT. La plus grosse bombe atomique qui s'appelait la Super Khrouchtchevine, c'est Khrouchtchev qui avait posé ça dans les années 60, c'était 60 mégatonnes. Donc la météore cratère, c'est à quelque chose près l'équivalent de la plus grosse bombe nucléaire qui a fait la course à qui sait qu'aura la plus grosse. Et là, c'est les Russes qui ont gagné. Si vous prenez 500 mètres de diamètre, ça fait 10 puissance 3 mégatonnes. Là, c'est un cratère, Mian, je ne sais même pas où c'est. 1 km de diamètre, ça arrive une fois tous les 1 à 20 millions d'années, c'est Rochechouart. 5 km de diamètre, ça arrive statistiquement tous les 20 à 100 millions d'années, c'est Popigaï, par exemple, le cratère de Sibérie. 10 km de diamètre, ça arrive statistiquement tous les 100 à 500 millions d'années. Le dernier, on sait très bien quand est-ce qu'il est tombé, c'est il y a 66 millions d'années, c'est celui qui est en partie responsable de l'extinction des dinosaures non aviens. Alors encore plus gros, il n'y a pas assez d'événements pour qu'on voit des statistiques. Comment, ça c'est les statistiques.
Mienne est en Suède.
Mienne est en Suède, voilà monsieur qui a le web. Comment voir? Eh ben, on peut surveiller le ciel. Vous prenez des photos du ciel. Tout ce que vous voyez, c'est des étoiles qui font un tour de la Terre à 23h et 57 minutes. Mais il peut y avoir là-dedans des objets qui se déplacent relativement par rapport au reste. Par exemple, ici, vous avez un doublé, un gros et un petit. Le gros ne bouge pas. Et s'il faut la photographie du même champ du ciel, mettons une semaine après, le petit s'est déplacé. Donc cet objet est dans le système solaire. Et si vous faites les photos régulièrement, vous calculez sa trajectoire. Et vous regardez si sa trajectoire coupe l'orbite de la Terre. Et si quand elle coupe l'orbite de la Terre est là. Parce que si la Terre n'est pas là, c'est pas grave. Alors, depuis un certain temps, on trouve, comme ça, des orbites qu'on appelle des géocroiseurs, c'est-à-dire qui croisent l'orbite de la Terre, et qui peuvent, et grosso modo, on en trouve depuis qu'on en cherche. Avant, on les trouvait par hasard, et à partir de 1980, on s'est mis à les chercher, et quand on cherche, on trouve. On regardera en détail ce qui s'est passé là. Mais par exemple, le plus célèbre des géocroiseurs, pour les amateurs de Tintin comme moi, c'est Adonis. Vous savez, c'est celui autour de laquelle le capitaine Haddock s'est mis en orbite, parce qu'il était complètement bourré, qui a été découvert en 1936, mais par hasard. On ne le cherchait pas, mais on l'a trouvé. Alors, on va regarder les découvertes depuis 1980. Voilà ce qui se passe depuis 1980. Alors, jusqu'en 90, quasiment on ne cherchait pas, on ne trouvait pas, puis après on cherche. Alors, ils sont classés par taille, les gros, plus d'un kilomètre, en rouge, les moyens, plus qu'une centaine de mètres, et tous à la fois, donc surtout les petits. Vous voyez que la croissance... On en trouve de plus en plus. Et vraiment, c'est une croissance exponentielle. Plus on cherche, plus on trouve. Les gros, ça croît, et moins vite. Et les petits, très gros, ça a cru jusque vers 2010, et depuis, c'est horizontal. C'est-à-dire qu'on n'en trouve plus. C'est-à-dire, a priori, on a trouvé tous les gros, qui peuvent nous rentrer dedans. Les gros, c'est plus d'un kilomètre. Et dans les gros qu'on a trouvés, rien n'est prévu pour nous rentrer dedans. Je parle des gros. Les moyens en jaune et les petits en bleu, c'est autre chose. Alors, ça c'est une photo instantanée, évidemment c'est pas une photo, du ciel, le 9 mai 2008, à 15h07, temps universel. Tous les points verts, c'est des astéroïdes. La majorité sont au-delà de l'orbite de Mars, qui est ici. Là, vous avez Mars, la Terre, Vénus, Mercure, le Soleil. Et les points rouges, c'est des géocroiseurs. Alors, ils sont pas tous, ils tournent. Par exemple, je prends ce géocroiseur-là, celui qui est marqué par la flèche rouge. Il a, par exemple, une orbite comme ça. Et donc, il croise l'orbite de la Terre, deux fois par orbite. Et si, alors, c'est pas tout à fait dans le même plan, donc, mais si par hasard, la Terre est exactement là, quand le machin, ça fait boum. Alors, maintenant qu'on sait, on peut regarder ce qui nous attend. Alors, j'ai préparé cette conférence, c'est vendredi dernier, le 28 mai. Je suis allé sur un site de la NASA. Alors, si vous êtes complotiste, vous savez que c'est tout faux, hein, c'est la CIA qui fait tout ça. De toute façon, la Terre est plate. Et le professeur Raoult a bien dit que le coronavirus a été fait par les Chinois. Mais si vous croyez la NASA, vous avez la liste, donc du 28 mai jusqu'au 11 juin, mais tous les jours, elle est renouvelée, hein, de ce qui passe à moins de 5, près de la Terre. Près de la Terre, c'est moins que 5% de distance Terre-Lune. C'est quand même assez près, 5%. Alors, j'en ai encadré deux. Un qui est passé le 28 mai. Il est passé à entre la Terre et la Lune. Ça, c'est la distance interlunaire. Il est passé à 0,37, c'est-à-dire un tiers de la distance Terre-Lune. Il est vraiment pas passé pas loin, hein. Beaucoup plus près de la Terre que de la Lune. Mais ça aurait pas été grave, hein. Son diamètre était estimé entre 2,8 et 6,2 mètres. C'est même pas de chez Chelyabinsk. Par contre, demain, le 6 juin, j'espère qu'ils ne se sont pas trompés dans le calcul de l'orbite, parce qu'il y en a un qui fait diamètre. Alors, on le voit pas, il est suffisamment loin qu'à la trouver, on voit pas sa taille, on voit un point lumineux, et estimant la lumière, on peut estimer la taille, mais il peut être noir ou blanc. Alors, parce qu'il y a une incertitude, il fait entre 250 mètres et 570 mètres. C'est un gros bazar. Heureusement, il passera de la Terre à 13 fois la distance Terre-Lune. Donc, il y a peu de chances qu'il soit trompé à ce point et qu'il nous rentre dedans. Mais vous voyez, demain, il y a un machin, on va dire de 500 mètres pour simplifier, qui va quasiment croiser la Terre. Alors, qu'est-ce que ça fait, 500 mètres? 10 puissance 11 000 mégatonnes de TNT. 11 000. Je rappelle que la plus grosse bombe atomique, c'était 60 mégatonnes. Mettons 100 pour simplifier, 11 000 par rapport à 100 000 facteurs. Ça serait une catastrophe majeure. Heureusement, il passe loin. Mais bon... Et puis, il y a le risque des comètes. Les astéroïdes, c'est très bien, ils vont pas loin, on peut le voir. Les comètes, elles viennent de beaucoup plus loin. Il y en a moins. Mais c'est beaucoup plus difficilement prévisible, parce que la plupart des comètes non périodiques, on les voit arriver, elles passent la semaine d'après, ou l'année d'après. Je me rappelle, la première belle comète que j'ai vue, c'était Yakutake, en 95, je crois. Elle a été vue un mois avant de passer près de la Terre. Elle passait pas loin, mais c'est rare. Alors voilà, j'ai une comète. Alors voici 1700 ans de passage proche de comète. Alors la proche qui est passée pas loin, la dernière, c'est le 16 décembre 2018, la comète 66P Virtanen, elle est passée à 30 fois la distance Terre-Lune. Et évidemment, tout ce qui est avant, on va dire 2000 et quelques, c'est fait par des chroniques historiques. Et celle qui est passée le plus près, c'est quand même 4 fois la distance Terre-Lune, 199. Il y en a une là, par exemple, qui est passée en 1770. On a des chroniques là en 1366. On a pu retracer sa trajectoire et voilà. Et alors quand des comètes passent, c'est très joli. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des comètes. Il en passe de temps en temps. Ça, c'est une photo que j'ai faite le 15 mars 2013, à 19h40. Elle était à la comète Pan-STARR. Un soir, il faisait beau. Je me dis, s'il fait beau, j'ai pris mon appareil photo. J'ai même pas pensé à prendre mon pied parce que je commençais à avoir un Alzheimer débutant. Et je suis allé sur les Monts d'Or lyonnais, donc dans la banlieue lyonnaise, à Limonest. J'avais pas de pied, mais j'ai mis mon appareil photo sur le toit de ma bagnole. Et j'ai fait une pause et on voit la banlieue lyonnaise, les monts du Lyonnais, le soleil qui se couche et la comète Pan-STARR que j'ai photographiée donc il y a 7 ans dans la banlieue lyonnaise. N'importe qui aurait pu le faire, mais n'importe quand. Elle est restée à peu près une semaine dans le ciel. Beaucoup de gens pensent qu'une comète ça fait que passer vite. Là, si vous retenez le lendemain, la comète, au lieu d'être là, elle sera là, mais... Donc, vous pouvez voir des comètes, mais il faut suivre l'actualité. Et en général, on le dit pas, on préfère parler de la dernière petite phrase de Macron, ou du bébé royal de telle ou telle princesse anglaise, plutôt que de dire, de toute façon, regardez le ciel, il y a une comète. Bon, ça fait 155 diapos, j'ai 7 minutes de retard. J'aurais encore bien des choses à dire sur d'autres impacts du 21e siècle, sur des impacts ailleurs que la Terre, sur les impacts et l'évolution, sur les impacts et l'origine de la vie. Il faut bien terminer. Et je vais terminer avec 3 images, mais sur la même diapo, de l'impact qui a le plus marqué notre planète. C'est l'impact qui, il y a 4,45 milliards d'années, a tapé de façon tangentielle la Terre, l'objet impacteur à peu près la taille de Mars. Ça a éjecté de la Terre toute une chapelet de débris qu'on fait un anneau. Ces débris se sont réaccrétés, et ça fait la Lune. La Lune est le fruit d'un giga-impact d'il y a plus de 4 milliards 4 de la Terre. À chaque fois que vous regardez la Lune, c'est le fruit d'un impact. Le corps impacteur qui a complètement disparu, on lui a donné un petit nom, il s'appelle Théia. Je vous remercie de cette conférence semi-confinée, parce qu'on était deux dans la pièce, mais on était loin. Et peut-être une autre fois, si le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Je vous remercie.
Alors, tu as dit que tu avais 7 minutes de retard, mais c'est pour l'instant parce qu'il y a des questions.
Oui.
Et alors, s'il y a des spectateurs qui sont vraiment affamés et qui veulent aller manger, la vidéo sera disponible en rediffusion, donc vous pourrez rattraper les questions de plus tard si vous avez un rendez-vous. Alors, il y a eu aussi beaucoup de messages pour dire que c'était une conférence très très intéressante et je vous remercie. Tu es même un nouveau fan, parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit une question avec comme pseudonyme Fan53 de Pierre Thomas.
C'est la Mayenne.
Oui, sûrement. Oui. Qui te demande à quoi est due une pluie d'étoiles filantes?
Alors, une pluie d'étoiles filantes, comme par exemple tous les 11 août, enfin, c'est une petite pluie, tout en fait, une petite averse.
Perséide.
C'est quand l'orbite de la Terre croise l'orbite d'une comète, pas loin, juste après que la comète soit passée. Prenons la comète de Halley, qui fait un tour en 76 ans. Sur son orbite, la comète laisse plein de poussière. Tout ce qui sort de la queue, là, tourne avec la comète. Et l'orbite de la comète est poussiéreuse. Et quand la Terre... Qu'est-ce qu'il fait?
Je vais de l'autre côté parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas que tu regardes à droite. Ah oui. Dans la direction de Noé.
Voilà, l'orateur. Mais je m'éloigne pour pas te contaminer ou me faire contaminer par toi. Qu'est-ce que tu dis? Mais donc, quand la Terre, l'orbite de la Terre traverse l'orbite d'une comète et qu'on est juste derrière le passage d'une comète, eh bien, ça fait des poussières. Alors, des poussières, c'est tout petit. Plus petit que le petit pois. Et c'est ça, une étoile filante. Une étoile filante, c'est une micrométéorite. Mais les pluies d'étoiles filantes, c'est un amas de micrométéorites. En fait, c'est pas des météorites type astéroïde, mais type comète. Il y a sur la trajectoire d'une comète. Alors, de temps en temps, il y a des pluies d'étoiles filantes annoncées. Quand on sait qu'une comète, il y en a une fois, je me rappelle, elle passait fin octobre, début octobre, fin septembre. J'étais sur le terrain avec mes étudiants. Ils avaient annoncé, les étudiants en géologie, donc on va sur le terrain, c'est normal. Ils avaient annoncé une pluie d'étoiles filantes pour 11h du soir, à peu près, parce qu'ils avaient calculé. On était dans la gli, on a pris le minibus, on s'est éloigné du village pour qu'il fasse bien noir, on s'est arrêté dans la vigne, on s'est couché par terre dans la vigne, et à l'heure prévue, il y avait à peu près une étoile filante toutes les 10 secondes, c'était zouf, zouf. C'était assez extraordinaire. Donc des fois, il y en a des imprévus, des fois, il y en a des prévus, et puis, il y en a des régulières, par exemple, tous les 11 août, c'était le facile. Chaque pas pluie, les petites averses d'étoiles filantes ont des noms. C'est ça.
Alors, il y a une autre question de Charcot qui a dit que c'est une conférence très intéressante, qui justement est dubitative sur la taille des étoiles filantes. Tout à l'heure, tu as dit que c'était la taille d'un petit pois.
Oui.
Et il veut savoir si c'est vraiment aussi petit que ça.
Alors, la plupart n'arrivent pas jusqu'au sol. Donc, ça peut être plus gros. Il y a toute une graduation. T'as vraiment des petits machins, qui font une traînée lumineuse qui dure pas. T'en as, si vous regardez, allez le 11 août, regardez s'il fait beau. Des fois, ça dure plus longtemps, ça se casse en morceaux. Là, c'est pas des petits pois, c'est des melons. T'as une graduation de taille, il n'y a pas que des petits pois, il y a certainement des melons. Moi, j'ai vu 3 ou 4 bolides, il y en a, des fois que j'ai vraiment vu, il s'est cassé en morceaux. Mais n'oubliez pas que ce qu'on voit, c'est pas la taille de l'objet, c'est la boule de plasma due à la chaleur de la friction.
Autre question, au cours de la conférence, tu as dit que les météorites, c'était très cher.
Oui.
Il y a Amazing Balou qui aimerait une estimation d'à peu près combien vaut une météorite.
Alors, c'est extrêmement variable. Si tu prends une chondrite ordinaire, vu qu'on m'en a donné beaucoup, c'est que c'est pas cher, qu'on m'estime beaucoup. Et dans toutes les bourses aux minéraux, par exemple à Lyon, il y a une bourse qui est toujours le week-end autour du 11 novembre. Il y a souvent un marchand de météorites. Et je sais qu'il y a une quinzaine d'années, avec des étudiants de L3, il y en a qui voulaient aller acheter une grosse météorite et la couper en morceaux. Ils m'ont dit, est-ce que tu peux venir avec nous? Comme ça, tu nous garantiras que c'est pas une fausse. Alors, ils ont acheté une météorite, et une grosse météorite, à peu près, vous voyez, comme ça. Et on l'a coupée, mais vous allez sur eBay, vous regardez le prix d'une météorite. Pour les conduites ordinaires, c'est pas très cher. Hein. Pour les météorites très rares, les plus chères, c'est les météorites qui viennent de Mars. Alors là, c'est des milliers d'euros le gramme. Et puis, il y a toute une graduation suivant la rareté de la météorite.
Alors, il y a une question de Gifereux, ensuite, qui demande si une chute de météorite peut déclencher un séisme ou une activité volcanique locale.
Alors, a priori, ça dépend ce qu'on appelle une chute de météorite. Un petit bazar, non. Un gros bazar, oui. Et je vais te donner deux exemples. Il y a une météorite qui est tombée en Canada, il y a 2 à 3 milliards d'années, je ne sais plus exactement, dans un endroit qui s'appelle Sudbury. Le rebond a fait remonter le manteau, qui a fondu, et ça fait un gigasile de roche magmatique, c'est un des deux, le troisième gisement de nickel du monde, parce qu'il y a eu des phénomènes de différenciation magmatique et tout ça. Mais alors mieux, c'est la météorite qui a tué, dit-on, les dinosaures non-aviens, celle de Succulub. Et je vais vous montrer pourquoi je dis dit-on, parce qu'il y avait une querelle, il y a des gens qui disent c'est la météorite qui a tué les dinosaures, il y a des gens qui disent c'est les volcans. Et c'est à peu près une querelle aussi intelligente que la chloroquinine fait-elle ceci ou fait-elle cela. Alors les gens, c'est des disputes d'école et il n'y a plus de raison. Les deux ont lieu. La météorite est tombée, le volcanisme a eu lieu. Le volcanisme a commencé avant la chute de la météorite. Donc c'est pas la météorite qui a fait le volcanisme. Le volcanisme, c'est les trappes du Deccan en Inde. Mais à l'époque, l'Inde était à la verticale, si je puis dire, de la Réunion. Donc c'est des trappes français. Mais on a estimé et daté finement la datation. Il y a des millions de kilomètres cubes de basalte qui sont sortis en moins de 200 000 ans. C'est extrêmement bref. Ça a commencé, donc c'est pas l'impact qui a fait ça, c'est l'arrivée d'une des points chauds. Mais il y a peut-être multiplié par 3 ou 4 le volume, le débit de la lave juste après l'impact. Donc l'impact énorme a dû faire des séismes et des choses comme ça. Il y avait un volcanisme, alors il y a des simulations qui expliquaient pourquoi un impact qui tombe au Mexique fait une recrudescence des éruptions volcaniques à l'emplacement de la Réunion. Mais ça s'explique, t'écartes les fissures, ça ne le provoque pas, mais ça peut l'exagérer. Il y a des papiers très sérieux que j'ai dans mon ordinateur, mais mon ordinateur est à l'autre bout de la pièce.
Une question de Lusacam, alors là, sur la fin, tu parlais d'astéroïdes. Oui. C'est quoi la différence entre météorite et une astéroïde?
La météorite, c'est quand on tombe par terre. Une météorite, c'est un caillou qu'on peut tenir dans la main, s'il est petit. L'astéroïde, c'est quelque chose qui tourne autour du Soleil sur une orbite d'astéroïde.
Et alors, quelle est la différence entre une comète et un astéroïde?
Alors, pour simplifier, un astéroïde, c'est fait en caillou, une comète, c'est fait en glace.
Dernière sous-partie de la question, quelle est la différence entre une météorite et une étoile filante?
Ben, la météorite, tu l'as dans la main. Hein, une météorite, c'est un caillou que tu as dans les musées, dans la main, etc. Et vous en avez eu à l'observatoire?
Sûrement.
Oui, il est là. Alors qu'une étoile filante... Effectivement, si t'as un avion très haut, tu peux peut-être la ramasser, mais tu te brûleras. Mais les grosses étoiles filantes, si elles arrivent par terre, ça fait des météorites. Sauf que, en général, les étoiles filantes des pluies sont des morceaux de comètes. Donc, c'est plus de la poussière organique que du caillou.
Une question de Marius Kirouski, qui demande si, alors, dans le piton des cratères complexes, il y a de la fusion ou c'est vraiment que de la déformation solide?
Alors, on en a un peu parlé. Voilà, c'est surtout de la déformation solide, et mais qui s'est fait très très vite parce que il était déjà sorti quand la lave était encore liquide tout autour, puisque la partie liquide entoure le piton. Donc je sais pas combien de temps ça met à se refroidir un lac de lave, mais c'est allé vite. C'est pas un rebond, pour parler en géologue, c'est pas un rebond isostatique qui se fait de quelques centimètres par an. C'est instantané à l'échelle géologique.
Et enfin...
Enfin, c'est fini, ce qui est dommage.
C'est une dernière un peu personnelle. Apparemment, c'est ton fan de Mayenne qui te demande si tu as de prochaines conférences prévues et si tu prévois de repasser au lycée du Parc.
Alors, je fais traditionnellement depuis une dizaine d'années des conférences, une par an, au lycée du Parc. Alors, quand j'étais prof à l'ENS non retraité, je faisais partie du jury d'entrée à l'école où je pouvais être jury remplaçant. Donc, je faisais très attention à ne faire des conférences que sur des sujets qui n'étaient pas au programme du concours. Pour qu'on puisse pas m'accuser, je favorise. Mais maintenant, je suis en retraite, je fais plus passer le concours. Je peux faire des sujets, n'importe quoi, même du programme des concours. Donc, a priori, je devrais passer au lycée du Parc l'année prochaine, si les gens du lycée du Parc l'année prochaine me veulent bien. Et s'il y a encore des conférences, pour cause de coronavirus, l'éducation nationale étant très timorée, elle applique le principe de précaution judiciaire, donc ne rien faire pour ne pas avoir de risque de procès. La santé des élèves, elle s'en fout, mais la santé judiciaire du proviseur, elle s'en fout pas. Faites une petite attaque contre l'éducation nationale.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous pour toutes vos questions.
Alors, combien j'ai avec personne?
Oula, mais plus de 80.
Plus de 80?
Voilà, et on peut dire en mot de... Tu veux dire un dernier mot?
Moi, non.
Avant de couper?
Ce que tu pourrais dire, c'est la prochaine conférence. Il y en aura une, mais on ne sait pas encore quoi.
Alors, on n'a pas encore le sujet, mais on... On espère en faire une avant la fin du mois de juin, donc fin juin. Si vous voulez être au courant, allez sur le site de l'Observatoire.
Alors, si tu te rapproches, mets mon masque, hein.
Ah, mets bien ton masque sur le site de l'Observatoire ou sur le compte Twitter. Dès qu'on est au courant et qu'on est fixé sur une date et un horaire, ce sera diffusé. Donc, voilà. Rendez-vous à la fin du mois. Bonne soirée!